Chers collègues, chers amis, ce qui constitue le dernier thème de ce colloque, c'est-à-dire celui qui concerne la romanisation et le problème de l'héritage celtique, a bénéficié depuis une génération environ d'un grand nombre de travaux et de recherches individuelles et collectives. Des colloques, des programmes de recherche, des livres y ont été consacrés aux Pays-Bas, en Allemagne, en France, en Grande-Bretagne, au Luxembourg et ainsi de suite. Le volume dont Daniel Pognier rendra compte dans un instant en constitue un bilan actuel auquel ont participé d'ailleurs les principaux acteurs des recherches et réflexions antérieures. Et un certain nombre, évidemment, sont dans cette salle. Cette tâche est évidemment presque infinie. Pour la rendre complète, il faudrait aller au 4e, 5e siècle pour voir à l'arrivée ce qui reste de ce fameux héritage. Mais enfin, bon. Vous comprendrez que les organisateurs de ce colloque ont été assez bien inspirés de la concentrer sur quelques problèmes généraux, au départ, si vous voulez, de cette évolution, sur le cadre juridique et urbanistique, notamment mis en place après la conquête, puis sur l'analyse de répercussions ponctuelles dans tous les domaines de la vie quotidienne des peuples occupés. Ce genre d'analyse est passionnant. Et elle passionne un historien de Rome comme moi, non seulement, comme certains esprits facétieux peuvent le suggérer, par la fascination des Romains devant les rites un peu particuliers des Gaulois, car Rome, vous le savez, en a autant à fournir, mais parce que le même mouvement culturel et impérialiste romain s'accomplit à peu près à la même époque en Italie même. À partir des guerres sociales, qui se terminent vers 80 avant notre ère, et qui sont prolongés par quelques épisodes très sanglants des guerres civiles qui suivent, les peuples de l'Italie républicaine perdent en une ou deux générations à peine leur culture et leur langue pour développer des villes nouvelles dans les plaines et pour s'intégrer dans le cadre institutionnel et culturel romain. Ça vous rappelle des choses que vous avez déjà lues. Tout cela au même temps que les élites italiques, au même temps que ces mêmes élites italiques entrent progressivement dans l'élite romaine, au point de supplanter la vieille élite sénatoriale de Rome. Le même genre d'évolution est retracé, en changeant ce qui doit être changé évidemment, dans ce volume. Comme le deuxième élément du titre le signale, cette section renoue à son tour, je crois que ce n'est pas la seule, avec la première, car elle est forcément déterminée par les concepts anachroniques qui ont été dénoncés et récusés à propos de la celtitude, si vous voulez. Si je peux dire un mot de mon expérience personnelle dans ce champ, je soulignerai que les progrès accomplis me paraissent reposer sur deux révisions importantes dans l'approche des sources et du problème plus général. D'une part, je constate que maintenant, on commence à se rendre compte que la civilisation celtique, comme donnée universelle englobante, n'a sans doute jamais existé ailleurs que dans nos livres et dans nos cours. Il y a des ensembles celtes suivant les époques, etc. Enfin, j'ai entendu déjà des remarques dans ce genre et je ne vais pas insister sur cela. Mais c'est très important, puisque même dans une cité gauloise, je ne suis pas sûr, après avoir regardé dans quelques cas de près les choses, que ces peuples aient jamais eu des institutions communes, sur le plan religieux par exemple, avant l'Empire. Parfois, dans quelques campagnes militaires peut-être, mais c'est très rare, c'est des choses extrêmement morcelées. Et la deuxième constatation, et c'est encore une fois un développement parallèle dans les réflexions aussi, c'est le problème de romanisation. Qu'est-ce que c'est la romanisation? C'est-à-dire, il faudrait savoir auparavant ce qu'est Rome dans ce cas. Il y a certes la cité de Rome au bord du Tibre, qui est désormais, je m'en excuse auprès des Gaulois, la métropole du monde, mais ce qui se trouve derrière le concept de romain, de romanisation, n'est pas simplement ce modèle de la Rome, de Rome, de toujours. C'est davantage, pourrait-on dire, le modèle des municipes et des colonies fondées en Italie, en Hispanie et ailleurs depuis des siècles avant notre histoire qui est traitée ici, et même plus que cette expérience des fondations de colonies, des déductions de colonies c'est l'expérience que cette puissance impérialiste a ainsi empiriquement acquise au fil des siècles. Or, là encore, les modèles romains, cette expérience de cette puissance impérialiste, les modèles ont fortement évolué suivant les époques, suivant les régions et les contextes de la conquête. C'est même là, on ne peut pas parler d'un modèle romain, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué dès que vous commencez à gratter à Rome même. Et il est évident que les travaux comme les vôtres, pour nous, sont un miroir exceptionnel, puisque nous voyons souvent avec davantage de sources, ou qui sont mieux conservées sur tel ou tel point, des développements dont nous rêvons en Italie, mais que malheureusement la déesse archéologie nous refuse. Nos enquêtes, donc, se réfèrent à des modèles des deux côtés de l'observatoire qui sont relativement flous, tous les deux, au point que, quand on les a identifiés, quand on dit, bon, qu'est-ce que c'est les Gaulois, etc., et on croit avoir fait une percée, qu'est-ce que c'est les Romains, et on est très content de savoir un certain nombre de choses et d'avoir acquis une certaine prudence, eh bien, le travail est loin d'être fini. C'est là que la recherche commence, parce qu'il n'y a pas de réponse a priori, même quand les référents sont bien définis. Et c'est ce genre de travail qui est en cause ici. Mais il est vrai que, je crois, l'une des percées scientifiques les plus importantes qui a été faite au cours des décennies passées consiste à se rendre compte qu'il y a une gestion des conquêtes romaines ou des conquêtes par Rome qui n'est pas celle des puissances impérialistes modernes que nous avons tous en tête, ce modèle. Alors, surtout du point de vue religieux, ça ne va pas du tout, par exemple. Et que la compréhension du monde romain, du mode romain d'intégration des peuples conquis dans l'Empire est la première condition pour aller plus loin et pour pouvoir commencer à poser ce qui est appelé dans ce volume le problème de l'héritage celtique. Parce que si on ne se donne pas la peine ou les moyens de lire, de déchiffrer ce qu'on trouve, et ce qu'on trouve, je m'en excuse, c'est des choses romaines, mises dans le moule romain qui a été défini déjà plusieurs fois dans ces débats, eh bien, on passe à côté, je le crains, de l'essentiel. Mais pour tout cela, n'est-ce pas, je crois qu'il est prudent de passer la parole à Daniel Pognier, qui connaît infiniment mieux ces problèmes que moi.
Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, vous le savez bien, depuis une trentaine d'années, conséquence de la multiplicité des découvertes archéologiques, mais aussi des progrès méthodologiques et du perfectionnement des modes d'interrogation et d'interprétation des sources, nos connaissances relatives à l'évolution des sociétés celtiques et aux transformations consécutives à la conquête romaine se sont considérablement renouvelées. On peut ajouter, même si l'éradication des scories appelle une vigilance de tous les instants, l'affranchissement des idéologies nationalistes, colonialistes ou raciales, enfin le déclin de certains préjugés tenaces, prompts à établir une hiérarchie des valeurs culturelles, au sommet de laquelle triompherait la civilisation gréco-romaine. La Gaule, qui n'est plus la France, comme les Germains ne sont plus les ancêtres du peuple allemand, la Gaule a été intégrée dans le monde civilisé. En même temps, la mission civilisatrice de Rome, trop longtemps privilégiée, mais aussi l'importance de la culture gauloise ou le rôle de la Gaule dans le destin de l'Empire, trop souvent exalté, ont cessé d'être l'objet de jugements de valeur partisans. Le sujet que nous avons à traiter, la romanisation et la question de l'héritage celtique, se révèle complexe et délicat, truffé d'obstacles, non seulement en raison du caractère inégal de la documentation, mais aussi parce que les cultures considérées, loin d'être frappées du sceau de l'unicité, de se montrer figées et fermées, sont marquées par l'évolution, la diversité et la contamination. Un thème difficile également par l'ambiguïté des concepts mobilisés pour l'analyse. Quel sens exact conférer à des termes tels que rupture ou continuité? Exprime-t-il des faits ou des phénomènes de nature sémantique, morphologique, structurelle, fonctionnelle, topographique? À chaque fois, des précisions mériteraient d'être apportées. Quant à la notion même de romanisation, que je place entre guillemets, au-delà des nombreux débats qu'elle a déjà suscités, il a été jugé préférable de la conserver en sa qualité d'outil utile pour mieux décrire et comprendre les mutations qui ont affecté les peuples soumis à Rome, à condition, encore une fois, de se débarrasser de tout préjugé culturel, de s'affranchir des idéologies héritées des siècles passés et de renoncer à toute interprétation romano-centriste et irénique de l'histoire, en accordant à chaque culture, hétérogène par nature, sa valeur propre. Il convient encore, sans minimiser la part de Rome et de l'Italie, elle-même soumise à de profondes transformations, comme vient de le rappeler John Scheid, de comprendre la romanisation comme un processus culturel d'interaction continu et évolutif, complexe et diversifié, valable selon le temps et les lieux, qui concerne les élites, certes, soucieuses de légitimer, sinon de conserver leur pouvoir par une idéologie nouvelle, mais qui a fini par toucher toutes les classes sociales. Au plan géographique, sans exclure totalement les provinces voisines, en raison précisément de la diversité des situations, la réflexion a été recentrée sur la Gaule, telle que Jules César l'a définie arbitrairement dans ses commentaires, comprise donc entre les Pyrénées, le Rhin, l'Atlantique et les Alpes, soit la Narbonnaise et les Trois Gaules. Notre rapport voudrait suggérer quelques éléments de réponse aux quatre questions suivantes. La première, quelles ont été les conséquences politiques, économiques et socioculturelles de la conquête et de l'intégration des Gaules dans l'Empire de Rome? Ou si vous voulez, qu'est-ce qui a changé? Deuxième question, que reste-t-il de la Gaule indépendante sous l'Empire? Troisième question, quels ont été les facteurs et les acteurs principaux de la romanisation? Enfin, question un peu subsidiaire, qui relève sans doute davantage de la spéculation que de la science historique, sans la conquête, quelle évolution auraient connu les Gaules? Le premier changement a été, bien sûr, la conquête et l'intégration provinciale, un thème qui a été traité par Patrick Leroux. Si la conquête n'a pas été, on le sait bien maintenant, à l'origine de la romanisation, elle a constitué assurément un facteur essentiel d'accélération et de renforcement du processus d'intégration, en imposant un changement de rapport de force et en offrant un cadre nouveau à l'évolution des sociétés gauloises. Sans revenir sur les causes de l'intervention romaine, qui s'inscrit dans la suite d'un long processus de confrontation avec le monde celtique, mais ne relève ni d'une question gauloise spécifique, ni du sentiment d'une puissance déclinante, nous rappellerons que les raisons premières sont sans doute au nombre de trois. Bien sûr, la politique romaine de domination et d'expansion, riche d'une expérience de plusieurs siècles, soutenue par des élites italiennes soucieuses de protéger les intérêts de Rome et prompte à nouer des alliances avec les notables locaux. Deuxième raison, un concours de circonstances, un concours comme l'exode helvète et auparavant la désignation de César comme gouverneur de la Cisalpine et de l'Illyrie, auquel on accorde en plus encore la Transalpine. Enfin, naturellement, l'ambition personnelle de César. La prise de pouvoir du vainqueur, première forme de romanisation, s'est traduite concrètement par la réduction en province romaine, une structure originale propre à la République qui impliquait non seulement la reconnaissance de la majestas du peuple romain, mais aussi le paiement d'un tribut, l'exécution de corvées, l'entretien de l'armée, la fourniture d'auxiliaires, une vieille pratique romaine largement mise à profit par César. Si l'intégration provinciale, mais aussi l'attribution de la citoyenneté romaine à titre individuel ou collectif ont marqué la première étape juridique, administrative et sociale de la romanisation, elles n'ont pas entraîné de modifications rapides et profondes des modes de vie ou des traditions culturelles. Si César a vraiment engagé le processus, il faudra attendre les réformes augustéennes, notamment le découpage de la Gaule chevelue en trois provinces, nouvelles entités complémentaires de la Narbonnaise et l'instauration des cités pour assister à de véritables changements. La municipalisation présentée par Michel Darpin, qui constitue la deuxième étape de l'intégration, comme la première a été imposée par l'autorité dominante, même si des négociations ont pu s'engager avec les élites indigènes. Elle représente une composante fondamentale de la province et un facteur essentiel de la romanisation. Elle a suscité de nouveaux rapports avec Rome, qui ont entraîné la fin des guerres entre cités, l'abolition des liens hiérarchiques entre peuples indigènes. Le terme de civitas a été pendant un temps source de confusion et d'ambiguïté. Il n'y a plus lieu, aujourd'hui, de céder à l'idéalisation d'une conquête respectueuse des traditions et des cadres ethniques gaulois, et d'accorder à une méthode régressive que les progrès méthodologiques actuels ont définitivement mis à mal, une confiance excessive. L'organisation des cités n'a été ni immédiate, ni dépourvue de tâtonnements, l'a entraîné de nombreux remaniements territoriaux, des regroupements, des créations artificielles, voire la disparition de certains peuples. Ainsi, à défaut de rupture, les changements dont les modalités exactes restent difficiles à saisir incitent à admettre que les civitates romaines ne sont plus les héritières directes et naturelles des entités territoriales indigènes. Leur territoire est juridiquement défini, matériellement borné, il comprend un chef-lieu, image de la romanité, des agglomérations secondaires, des vicis et des pagis. Sous l'Empire, ni le vicus, une institution romaine, ni les vicani, ni le pagus, une unité territoriale à fonction censitaire et fiscale, qui a souvent joué un rôle important dans l'organisation des cultes des cités, ne permettent aujourd'hui de soutenir la thèse d'une filiation celtique. L'organisation provinciale et l'octroi de la citoyenneté romaine ont constitué la première étape d'une intégration sociale des indigènes, analysée par Michel Christol à partir de l'épigraphie. Une intégration différenciée selon les situations, encore une fois, et les périodes considérées. L'usage de l'épigraphie, une nouveauté, représente pour les élites un des moyens d'affirmer à la fois leur intégration par la langue latine et leur puissance politique et sociale, mais on ne saurait tirer argument de la disparité régionale de son emploi pour conclure à l'hétérogénéité des structures institutionnelles. L'interrogation devrait plutôt porter sur la pratique du latin, les réticences, les indifférences ou la place de l'écrit, un champ d'étude encore largement ouvert. Autre changement, les noms de personnes. En Narbonnaise, la latinisation des anthroponymes a été précoce et rapide, particulièrement dans les colonies de vétérans, à l'exemple de Narbonne, où les influences italiennes sont manifestes dès le début du 1er siècle avant nos frères, et dans les cités de droit latin comme Nîmes, où l'on voit pourtant apparaître au 2e et 3e siècle, même dans la haute société, des gentilis d'origine celtique, peut-être un phénomène d'ascension sociale, en même temps que l'indice d'un élargissement du champ de la latinisation. L'intégration provinciale et la municipalisation vont changer radicalement l'image de la ville. Une question qui a été confiée à Xavier Lafont. Qu'il s'agisse d'une fondation ex nihilo ou de la transformation d'un site indigène. Expression même de la romanité, puissant facteur d'unification, l'agglomération urbaine offre désormais le cadre obligé du nouvel idéal civique. Elle se définit non seulement par son statut et ses monuments publics, qui traduisent une ferme volonté de monumentalisation, mais aussi par les liens étroits entretenus avec Rome, par la célébration du culte impérial. Conception d'ensemble, et architecture la distingue clairement de l'oppidum celtique. Nous pourrons y revenir peut-être tout à l'heure dans la discussion. Nouvelles techniques de construction, accroissement des moyens financiers, par la concentration du pouvoir dans le chef-lieu et la participation occasionnelle de la caisse impériale, augmentation de la population urbaine et adoption par les élites de la pratique italienne d'une résidence citadine, entraîne d'importants changements quantitatifs et qualitatifs. Tout en s'écartant de l'idée d'une ville classique idéale et en s'attachant à présenter une image évolutive du fait urbain, la recherche récente a porté une attention particulière à la période comprise entre la conquête césarienne et l'avènement d'Auguste, qui révèle que la mise en place de l'urbanisme a été plus progressive et diversifiée qu'on ne le supposait. En Gaule méridionale, certains oppida ont fait l'objet d'aménagements urbains dès la seconde moitié du 1er siècle avant Jésus-Christ, au moment même où l'octroi du droit latin se généralisait. Ces réalisations, qui témoignent d'un statut juridique garantissant une certaine autonomie, relèvent assurément d'initiatives locales. En Gaule chevelue, la présence militaire romaine, attestée depuis quelque temps maintenant par l'archéologie sur de nombreux sites indigènes, dont dans les décennies immédiatement consécutives à la conquête, trahissent un contrôle plus serré à la fois du territoire conquis et des oppida gaulois, premier noyau de l'urbanisation. Sur l'oppidum de Bibracte, même s'il convient de relativiser le caractère exemplaire du site, la première monumentalisation se manifeste par l'édification d'une basilique, partie constitutive d'un forum dont on vient de retrouver quelques éléments encore, d'un bassin monumental sur la voie principale élargie, de plusieurs domus méditerranéennes disposés sans règles strictes d'urbanisme malgré l'existence d'un parcellaire. Eh bien, ces observations incitent à penser que les indigènes ont commencé à construire une ville à la romaine sur un site qui ne s'y prêtait guère avant de s'installer à Autun selon un processus de déplacement bien connu. Quant aux acteurs de l'urbanisation et de la monumentalisation, il n'est pas toujours aisé de déterminer la part respective de l'autorité romaine, décidée à promouvoir une politique urbaine conforme à l'idéologie officielle, et le rôle des élites gauloises, soucieuses de proposer à leur chef-lieu un nouveau cadre urbain, répondant aux exigences de la romanité, mais adapté aux circonstances régionales. Pression du pouvoir, aide financière, impériale pour des travaux onéreux, mais surtout évergésie des élites locales, accordant un financement individuel à des projets collectifs, ce qui constitue une nouveauté, reste le plus souvent à l'origine de constructions publiques auxquelles l'armée, avec ses ingénieurs, ses spécialistes, ses techniciens, des équipes itinérantes d'artisans formés à Rome ou d'artisans locaux au savoir-faire inégal, ont apporté des contributions variées, propres à brouiller les pistes des origines et des filiations. Si l'intégration et la municipalisation n'ont pas mis un terme au processus d'urbanisation des agglomérations secondaires, attesté certes typiquement dès le IIIe siècle avant Jésus-Christ, et si nombre de continuités fonctionnelles et topographiques ont été confirmées, il n'en demeure pas moins que les modifications de statut, de lien juridique avec le chef-lieu et la nouvelle organisation territoriale ont apporté de nombreux changements, comme l'a montré Jean-Luc Fiche dans son rapport. À l'époque augustéenne, des agglomérations sont créées, d'autres disparaissent, d'anciens chefs-lieux sont déclassés, des concentrations ou de nouvelles répartitions de l'habitat s'observent le long ou au carrefour des nouvelles voies de communication, avec de nombreuses variantes régionales qui interdisent toute généralisation réductrice. À la même époque, des restructurations complètes sont engagées sur plusieurs sites, signe de la volonté politique d'adapter les structures aux normes romaines. Comme dans les villes, évergésie inévitable, nouvelles techniques de construction et monuments publics romains ont largement contribué à modifier le paysage urbain. Ainsi, à l'évidence, si leur statut et leur aspect ont changé, par les réseaux qu'elles constituent et les fonctions économiques et religieuses qu'elles remplissent, les agglomérations secondaires illustrent d'une certaine manière une forme de continuité. Dans les campagnes, la diffusion des technologies méditerranéennes de transformation des produits agricoles, présentée par Jean-Pierre Brun, a largement contribué aux innovations dans trois domaines. La mouture des céréales, l'extraction de l'huile d'olive et la vinification. Si les moulins rotatifs manuels sont connus dès l'Athènes finale, il faut attendre le début du 1er siècle après Jésus-Christ pour voir l'apparition du moulin hydraulique. Sans jamais remplacer les premiers, en particulier dans le cadre domestique, le modèle de moulin à roues verticales, mû par une chute ou un courant d'eau, va se diffuser rapidement. Les techniques d'extraction d'huile introduites par les Grecs apparaissent en Gaule méridionale, particulièrement autour de Marseille dès le IVe siècle avant notre ère. Et la seule innovation notable sous l'Empire est l'invention du pressoir à vis centrale ou vis à levier, qui va remplacer progressivement, mais partiellement, l'antique pressoir à levier. La commercialisation du vin, grâce aux amphores, commence timidement au Ve siècle avant Jésus-Christ pour connaître une croissance significative aux deux derniers siècles avant notre ère. Quant aux tonneaux, une alternative à l'emploi des dolias et des amphores, il est encore impossible pour l'heure d'affirmer son origine celtique, même si sa diffusion dans les Gaules est largement confirmée dès la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ. La conquête de la Transalpine et l'implantation de colons italiens ont largement favorisé la diffusion et l'adaptation de technologies méditerranéennes, qu'il s'agisse de plantations de vignes, des procédés de vinification ou de la multiplication des ateliers d'amphores, autant d'activités qui renvoient indubitablement à des pratiques romaines. À partir de la Gaule méridionale, la diffusion de la vigne, plus rapide qu'on ne le soupçonnait il y a quelques années, a gagné tout d'abord l'Aquitaine entre 40 et 50, puis rapidement l'ensemble de la Gaule interne où le vin, contrairement à la Narbonnaise, n'a jamais totalement remplacé la bière d'orge, principale boisson des Celtes. Qu'en est-il des transformations des campagnes et de l'économie rurale? Une question qui a été confiée à Alain Ferdière. Eh bien, l'organisation, de manière générale, l'organisation fortement structurée du territoire, avec des villes, des agglomérations secondaires, à vocation économique et un habitat rural dispersé, mis en place dès le IIe siècle avant notre ère, ne connaîtra guère de modifications majeures avant la naissance du village médiéval. Les exploitations rurales gallo-romaines sont venues se greffer sur des établissements du temps de l'indépendance, en adoptant bien souvent l'emplacement, parfois légèrement décalé, l'organisation bipartite. L'opposition entre fermes indigènes et villas exige d'autant plus d'être relativisée que les deux formes ont coexisté pendant tout l'Empire et que des solutions mixtes sont très fréquemment observées. Le passage à la maçonnerie, guerre antérieure sauf exception au milieu du 1er siècle de notre ère, a permis, comme dans les villes, de renforcer la monumentalité et le caractère ostentatoire des établissements, prompt à exprimer la romanitas du propriétaire, mais aussi l'esprit d'émulation qui anime les notables. La typologie des villes relève de modèles romains, qu'il s'agisse du plan compact ordonné autour d'une ou de plusieurs cours, ou du plan linéaire avec portique sur façade et pavillon d'angle, qui reprend avec de nombreuses versions locales la tradition italienne de la pars urbana ouverte sur le paysage. Les parcellaires pré-romains se voient bien souvent remplacés par de nouveaux réseaux, plus rectilignes, plus orthogonaux. Quant au cadastre, recoupage territorial à des fins fiscales au bénéfice de Rome, la recherche actuelle tend à les replacer sur les territoires coloniaux ou sur quelques terroirs privilégiés. Aux nouveautés technologiques méditerranéennes déjà mentionnées s'ajoutent quelques rares innovations dont l'origine exacte reste souvent indéterminée, comme la fameuse moissonneuse gallo-romaine Vallus ou les fours à sécher ou à fumer. Mais il faut bien dire que l'outillage agricole de base, perfectionné dès le néolithique, ne connaîtra guère de modifications avant la révolution industrielle. Au chapitre des productions agricoles, on notera l'accroissement notable des céréales, en particulier des variétés panifiables à grains nus, l'expansion de la vigne déjà mentionnée et l'introduction de nouvelles plantes alimentaires, l'acclimatation d'espèces horticoles inconnues jusqu'alors et le développement des vergers, des jardins et des espaces d'agrément. L'élevage voit l'apparition de nouvelles espèces, notamment plus robustes et plus rentables, comme celle du bœuf italien de grande taille, un phénomène qui apparaît à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ et qui trahit à la fois la diversification de l'utilisation de l'animal et l'essor des boucheries urbaines. Au risque d'accroître dangereusement le phénomène d'érosion, le recul de la forêt, déjà largement entamé à l'Athènes finale, s'accentue en raison du développement de l'agriculture, mais aussi d'une exploitation intensive du bois pour la construction et les besoins accrus en combustible. Quant à l'artisanat rural, loin de se limiter aux seuls besoins de l'autosuffisance, comme on l'a affirmé trop longtemps, en permettant l'exportation de certains produits, textiles, céramiques, tuiles, il participe, avec celui des villes et des agglomérations secondaires, au dynamisme d'une large économie de marché devenue la règle. Dans le domaine des productions manufacturées, analysé par Michel Feugère, l'approvisionnement en matières premières, l'un des trois facteurs avec la technologie et le contexte social qui définissent l'artisanat, change radicalement avec la prise de contrôle par Rome de l'exploitation vitale des métaux. Sans parler du sel, désormais monopole romain, tiré des marais salants au détriment des mines et des ateliers de briquetage indigènes. L'introduction de nouvelles techniques de construction entraîne un accroissement considérable des activités liées à l'art de bâtir, des carrières au four à chaud, des tuileries à la plomberie. Le soufflage du verre, venu du Moyen-Orient au 1er siècle de notre ère, inaugure l'utilisation quotidienne d'objets issus d'une matière recyclable. En même temps, le verre à vitre traduit en contexte tant public que privé un goût nouveau pour la lumière et les perspectives extérieures. La maîtrise du four à tubulure, d'origine romaine, va permettre la fabrication en masse de vaisselle en terre sigillée et favoriser son exportation dans une grande partie de l'Empire. La généralisation du tournage pour la fabrication d'objets en bronze et en os, mais aussi la multiplication des boucheries urbaines, propres à fournir une matière première de récupération, constituent des facteurs déterminants d'accroissement de la production. Parmi les innovations, on citera encore la scie de long à deux mains, pour le bois et la pierre, le rabot, l'étamage, une invention gauloise d'époque romaine due, selon Pline, au Biturige, le tournage hydraulique de la pyrolaire pour la fabrication d'ustensiles culinaires, l'apparition de l'alun, utilisé en teinturerie, commercialisé dans des amphores, ou encore, nouveauté plus anecdotique, la réparation au plomb des céramiques. C'est au plan quantitatif, l'intégration n'a guère amélioré des techniques artisanales séculaires et éprouvées, elle a surtout favorisé une production de masse inégalée jusqu'alors. Et l'influence de Rome est loin d'être générale. Une grande partie de l'initiative artisanale reste tout de même aux entreprises individuelles, qu'il s'agisse d'ateliers de proximité ou d'officines tournées vers une diffusion plus large, qui définissent leur organisation, l'importance de leurs investissements ou la nature de leur production et partant leur degré d'appropriation de la culture romaine. La situation est différente avec les mines et la métallurgie, selon le rapport présenté par Claude Demergue et ses collaborateurs. Avec la conquête, l'exploitation minière et la production des métaux vont échapper en grande partie aux indigènes et relever presque exclusivement de l'État romain, qui a toujours pratiqué une politique interventionniste et prédatrice dans les secteurs vitaux. Comme pour l'artisanat, les productions vont changer d'échelle et exiger une organisation efficace, capable de répondre à l'accroissement de la demande. Forte d'une longue expérience minière, comme Barcelone, Libérie, Rome va intensifier dans les Gaules l'exploitation des mines existantes, en particulier celles liées à l'extraction du fer, et en ouvrir de nouvelles. Expression probable d'un changement de stratégie, elle abandonne les mines d'or du Limousin, exploitées par les Gaulois depuis plusieurs siècles avec une grande maîtrise technique, préférant à l'exploitation intensive d'un petit nombre de mines, pourtant fort riches, les gisements alluviaux du nord-ouest de la péninsule ibérique, de grande étendue, mais pauvre, qui n'exigeaient point le recours à une main-d'œuvre qualifiée. Très tôt, certaines exploitations sont concédées à des sociétés romaines, d'autres à des particuliers, voire à des cités. Au chapitre des techniques, il reste quasiment impossible de distinguer l'apport strictement indigène d'un savoir-faire universel qui s'est constitué progressivement au cours du temps par des transferts et des échanges technologiques. Seuls certains modes spécifiques d'assemblage de cadres d'étayage en bois utilisés dans les galeries pourraient constituer les témoins bien modestes d'un héritage gaulois. Ainsi, comme pour l'artisanat, les changements semblent avoir davantage affecté le cadre socio-économique que les technologies. Qu'en est-il de la religion, un thème qui a été confié à William Van Andringa. L'imposition d'un nouveau cadre institutionnel par Rome, où la religion est indissociable du système politique, où il appartient à l'État et non à l'individu de définir ses rapports avec les dieux, a entraîné de profonds changements. On ne saurait encore parler aujourd'hui de continuité, de cohabitation, de fusion, d'harmonie ou de tolérance. Les religions gauloises, diverses et dynamiques, ont désormais l'obligation de se conformer aux règles civiques et juridiques du vainqueur. Si les dieux ancestraux subsistent, comme l'autorise le polythéisme antique non exclusif, et comme le recommande la Pietas romaine, s'ils ont la capacité de constituer avec d'autres divinités de nouvelles associations religieuses, comme l'empereur et le dieu Limetus à Châteauneuf, ils ont changé d'apparence, changé de statut, de nom, bien souvent. Le sommet de la hiérarchie divine est occupé désormais par Jupiter, le grand dieu civique, et par l'empereur régnant. Les formes de culte et les fonctions sacerdotales se sont imposées. Le temple, devant lequel se dresse l'autel sacrificiel, est devenu la demeure des divinités. Sa forme architecturale originale ne trahit aucune filiation, aucune continuité directe, si ce n'est parfois topographique, avec les sanctuaires du temps de l'indépendance. Les inscriptions votives comptent bien sûr au nombre des nouveautés. Si les cités peuvent définir chacune leur dieu public, leur calendrier et la liste de leurs magistrats, si elles peuvent élever d'anciens dieux locaux au rang de divinité polyade ou municipale, pensons à Lénus Mars à Trèves, à Mars Catorix en Helvétie, elles ne sauraient supplanter les dieux ancestraux de Rome par des divinités devenues romaines, certes, mais qui, hiérarchie oblige, ne trouvent pas leur place sur le forum. Leurs sanctuaires sont généralement relégués à la périphérie des villes. Au chapitre des nouveautés, on enlèvera encore l'apparition des cultes domestiques, des dieux lares ou des pénates. Ainsi, les dieux et les cultes ancestraux, loin d'avoir subi une éradication brutale, ont été intégrés dans un nouveau système religieux, appelé lui aussi, comme toute construction humaine, à connaître de nouvelles évolutions, entraînées par le dynamisme propre aux polythéismes antiques. En ce qui concerne les pratiques funéraires, traitées par Stéphanie Martin-Kilcher, la continuité des nécropoles entre l'Athènes finale et l'époque romaine, contrairement aux observations faites au sud des Alpes et dans une moindre mesure en Gaule septentrionale, est rarement attestée. Le plus souvent, de nouvelles aires funéraires sont aménagées au début de l'époque impériale, au gré de la création ou la transformation des agglomérations et des établissements ruraux, voire du déplacement du pomerium urbain. L'incinération, on le sait, ne saurait constituer un critère fiable de romanisation. mais elle apparaît en effet dès le IIIe siècle avant notre ère, bien antérieurement à l'intensification des contacts avec Rome. Et si elle tente à supplanter progressivement l'inhumation, cette dernière pratique, dont la régression varie selon les régions, ne disparaîtra jamais totalement. Le mode de signalisation des tombes, en revanche, a constitué jusqu'alors par un petit tertre ou un modeste fossé, va changer au profit du modèle romain. Un enclos maçonné, ou des enclos maçonnés alignés le long de voies sépulcrales, des pierres tombales, des stèles inscrites et sculptées, des monuments ou des mausolées, expression du faire-valoir et de l'auto-célébration. Le banquet funéraire partagé au moment des funérailles, attesté dès le 1er siècle avant notre ère, le banquet commémoratif accompagné d'offrandes aux morts, comme les funérailles accomplies et publiquées publiquement aux frais de l'État, relèvent de traditions romaines. Les tombes privilégiées de l'élite se distinguent désormais par leur monumentalisation et leur langage iconographique, héritage direct des traditions gréco-romaines. Jetons encore un bref regard sur la langue, les arts et la vie quotidienne, des thèmes qui n'ont pu être abordés au cours de la table ronde de Lausanne. Le latin, langue administrative et culturelle de l'Empire, s'est rapidement imposé. La pratique épigraphique du texte public au graffiti témoigne à l'évidence du processus d'alphabétisation des indigènes dès l'époque augustéenne. Les inscriptions, comme les monuments officiels, représentent un message de domination politique et culturelle compris de tous, même de ceux qui ne savent les lire ou les décoder. Le cadre public est privé de la vie quotidienne, les usages vestimentaires, l'attention portée aux soins corporels et l'offre des loisirs, avec des spectacles illustrant la prospérité et un nouvel idéal, ont changé. Dans le domaine musical, la conquête a entraîné la disparition des bardes, dépositaires de la poésie chantée, et l'enrichissement de la palette des instruments de musique. La littérature, sacrée ou épique, exclusivement orale, il est vrai, elle aussi s'est évanouie. Les auteurs d'origine gauloise se conforment désormais au genre latin. L'art celte, on le sait, s'est presque totalement effacé pour laisser place à des œuvres soumises, plus ou moins fidèlement, bien sûr, au canon de l'art gréco-romain. Le calendrier a changé et la perception du monde s'est modifiée. Soleils et planètes, promus au rang de divinités bienheureuses, gravitent autour du globe terrestre, composant un cosmos harmonieux, image même de l'ordre impérial. La vision géographique des terres habitées se concrétise par des cartes. Hormis les déplacements diplomatiques ou d'affaires, les voyages d'agrément, le tourisme en quête de curiosités naturelles ou culturelles, les pèlerinages et le goût pour les villégiatures, corollaire de la vie urbaine, connaissent un développement sans précédent. On pourrait encore multiplier la liste des nouveautés. Je passe ici sur le détail. Dans le domaine culinaire, présenté par Armand Desbats et ses collaborateurs, dès le 1er siècle de notre ère, l'apparition du pain cuit dans des fours en forme de dôme constitue un trait majeur de la romanisation. Arrivent des fruits d'origine exotique, de nouveaux légumes, des épices, des condiments, l'huile d'olive, des sauces de poisson. La consommation du vin, de collective et occasionnelle, devient individuelle et courante. La viande, souvent grillée en milieu aseptique, se sert généralement bouillie en sauce ou préalablement fumée dans des installations spécifiques. La consommation de cheval disparaît progressivement, celle du porc s'accroît dans le sud de la Gaule, tandis qu'elle diminue dans le nord au profit des ovicapridés. Le répertoire de la vaisselle culinaire et de table connaît un net enrichissement morphologique, je passe encore là sur les détails. Le chaudron métallique à crémaillère, bien pratique, reste en usage, mais il perd, avec les accessoires traditionnels du banquet gaulois, sa valeur de prestige. Les foyers aménagés au niveau du sol peuvent être remplacés par des structures maçonnées surélevées. Et dans les demeures de l'élite, la présence de triclinia atteste un service des repas à la mode romaine, sinon le plus généralement les convives consomment généralement assis, en particulier les femmes. En nous appuyant sur le rapport de Dick Whitaker, examinons encore brièvement si le processus de romanisation, longuement évoqué, a également concerné les populations établies à l'extérieur des frontières de l'Empire. L'exemple du limes germanique permet de répondre sans hésitation par l'affirmative. Contrairement aux idées reçues, Rome, qui s'est toujours réservé le droit d'accès au territoire barbare, entre guillemets, n'a jamais enfermé son empire dans les frontières linéaires, défensives, imperméables à tout échange. Plutôt qu'une barrière militaire, une ligne de démarcation et d'exclusion, le limes de Germanie, comme ceux de Bretagne ou d'Afrique du Nord, constitue une large zone contrôlée par l'armée, où s'observe un puissant dynamisme économique et socio-culturel, propre à estomper progressivement les distinctions ethniques et à rendre les sociétés plus homogènes. Le frontière du Rhin n'a jamais marqué une séparation entre civilisés et barbares, tout ça entre guillemets, entre Gaulois et Germains, comme l'affirme César pour justifier ses choix stratégiques. De part et d'autre du fleuve, s'étaient établis des groupes culturels et mixtes depuis plusieurs années déjà. Les recherches archéologiques récentes ont montré à l'évidence à la fois l'inadéquation entre ethnie et culture matérielle et l'impossibilité d'établir une distinction nette entre les cultures celtiques et germaniques. Le Rhin, avant d'être une frontière, comme plus tard le Danube, a constitué un axe économique vital pour assurer les communications et l'approvisionnement des troupes romaines. La présence de l'armée a joué un rôle essentiel dans le processus d'assimilation des populations établies de part sur la rive droite du fleuve. Le service dans les troupes auxiliaires, l'activité économique et culturelle des vétérans, les échanges, l'exploitation des ressources locales, les transferts de technologies, l'adoption de coutumes romaines ont permis d'établir des ponts entre Romains et barbares, entre guillemets, et de préparer les communautés dites germaniques, entre guillemets, encore, à une possible intégration dans l'Empire par la création d'une grande province de Germanie étendue jusqu'à l'Elbe, une ambition qui ne s'est jamais réalisée. Que reste-t-il de la Gaule indépendante sous l'Empire ? Outre la continuité du substrat ethnique, largement confirmée par la convergence des sources, hormis la diffusion du modèle méditerranéen qui s'est accéléré et intensifié avec la présence de Rome, il convient sans doute de mentionner en premier lieu les notables indigènes. Conservant le premier rang dans leur cité, gage de stabilité pour le pouvoir romain, ils ont été rapidement assimilés par l'octroi de la citoyenneté romaine qui était un privilège et non un devoir imposé, qui leur a ouvert les portes de la vie civique, mais qui les a contraints à la reconnaissance des valeurs romaines. Comme autrefois, ils pratiquent l'évergétisme, mais sous une forme nouvelle. Au lieu d'offrir des fêtes et des banquets, ils investissent dans les monuments publics. Comme autrefois, ils s'appuient sur le clientélisme pour renforcer leur dignitas, mais dans un cadre où la relation, la fidesse entre patron et client est strictement soumise à la jurisprudence romaine. Mais revers de la médaille, ils ont perdu le contrôle de l'armée, de la fiscalité, de la monnaie, des péages, du sel, des mines et des matières premières en général. Ils partagent désormais leur temps entre la ville, le nouveau cadre où ils exercent leur charge, et la campagne, où ils exploitent leurs terres et aiment à établir, fidèles à la tradition, leur dernière demeure. Si les cités gauloises ont changé de statut et connu de nombreux réaménagements territoriaux, elles restent tout de même le cadre identitaire par excellence des communautés indigènes. Si elles ne se font plus la guerre, émulation et rivalité demeurent, à l'image de celles qui animent toujours les notables. Continuité aussi dans les relations économiques avec Rome, dont les marchands, vous le savez, n'ont pas attendu la conquête pour sillonner les Gaules et développer les échanges au gré d'alliances, souvent conclues de longue date et traduites lors de la municipalisation par des statuts différenciés des cités. Le paysage et l'organisation du territoire, on l'a vu, ne se sont guère modifiés, mais les villes, les agglomérations secondaires et bien des établissements ruraux ont changé d'aspect et d'image. Et le réseau des communications, sans être bouleversé, a été adapté aux normes romaines. Pas de survivance dans l'architecture, mais des formules originales, à l'exemple du temple gallo-romain ou des édifices de spectacles mixtes. La présence de maisons de plan allongé ou celles de caves et de sous-sols observées dans de nombreuses agglomérations secondaires semble bien renvoyer, elle aussi, à des traditions indigènes. Dans les campagnes, répartition, structure, économie des établissements témoignent d'une persistance certaine, en particulier pour les fermes indigènes qui, dans maintes régions, perdurent encore une fois pendant tout l'Empire. Pour les modes d'exploitation, l'éventail général des espèces cultivées ou la nature des cheptels, les continuités semblent plus nombreuses que les nouveautés. Même constat à propos de l'artisanat, dont les méthodes éprouvées et l'outillage perfectionné de longue date n'ont guère laissé de place aux innovations. On y observe parfois des chaînes opératoires traditionnelles, mais dont les divers éléments ont été réalisés avec des matériaux romains. Rupture, continuité, matériaux romains, à l'exemple des séchoirs, des bassins, des foyers utilisés pour la fabrication de la bière d'orge traditionnelle. Sans qu'il soit obligatoire ou nécessaire d'exagérer le caractère original ou le haut degré du savoir-faire gaulois, il est permis d'affirmer que l'excellence acquise au cours du temps, voire une avance technologique, dans certains domaines, comme le charronnage, a pu entraîner, avec celui du vocabulaire, un transfert d'usage et de compétences en direction du conquérant. Ainsi, dans la cavalerie romaine, selles et éperons d'origine gauloise se généraliseront dès le 1er siècle après Jésus-Christ. Dans le domaine des croyances, les survivances intégrées au système religieux de Rome ne s'expriment plus que dans la répartition géographique des divinités indigènes, les théonymes, les épithètes ou les parèdres des divinités gréco-romaines, les attributs divins, la posture accroupie, la tricéphalie ou la forme animale. En revanche, la dévotion aux déesses mères, matresses, matronnets, aux sources, aux grottes, aux bois sacrés, bien que très populaire en Gaule, appartient en réalité à la sphère des traditions italiques. Dans les domaines rituels, un champ d'études encore largement ouvert, le dépôt d'armes ou d'outils miniatures, la mutilation symbolique des monnaies, des fibules ou des céramiques, ou le choix de certaines espèces animales renvoient sans doute à d'anciennes pratiques indigènes, mais désormais, encore une fois, soumises à des règles strictement définies par Rome. Au chapitre des coutumes funéraires, où les différences régionales, voire locales, rendent les distinctions délicates, rares sont les références à d'anciennes pratiques après les premières décennies du 1er siècle de notre ère. Seules les tombes privilégiées de l'élite, où le faire-valoir s'exprime désormais dans un langage architectural et iconographique en rupture avec le passé, seul le dépôt de vaisselle de banquet et d'armes miniatures, d'éléments de chair, d'attirail de chasse ou d'outils, voire les tumuli de Gaule septentrionale, pourraient être portés au compte de l'héritage celtique. Quant à la langue, si le latin s'est imposé rapidement, même si la pureté linguistique n'était pas toujours la règle, en particulier dans les classes modestes de la campagne, où l'on devait souvent parler une manière de s'habiller, quelques survivances sont attestées, bien sûr, sur des objets familiers, des bagues, des fuseaux, des tuiles, des pièces de vaisselle comportant des graffitis. Ces graffitis de propriété observés jusqu'au IIIe siècle, des comptes de potiers, des estampilles d'artisans, des plaques de plomb portant des textes magiques ou des calendriers comme celui que nous avons vu hier, dont l'usage sous l'Empire pose problème, sujet de discussion, et loin d'être assuré en tout cas. À ces témoignages, au demeurant peu fréquents, s'ajoutent quelques attestations littéraires, mais généralement tardives et souvent ambiguës. Si la langue française, à l'exception de nombreux toponymes, comprend à peine plus d'une centaine de mots d'origine gauloise, si le latin a emprunté quelques termes aux Gaulois, en particulier dans le domaine du vêtement, des armes, de l'outillage, du transport, de la faune ou de la botanique, force est de se rendre à l'évidence, la langue gauloise a fait naufrage. C'est bien du latin que le français est issu. L'héritage celtique se révèle encore dans des domaines comme la mesure des distances en lieu, indiquée sur les bornes millières, bien sûr, entre guillemets, en l'occurrence, jalonnant certaines routes romaines. Le port de vêtements traditionnels, largement attesté par l'iconographie, comme la pèlerine à capuchon, le saillon, les braies, les chaussures de cuir, les galliquets, adoptés par les Romains, la consommation de la bière, le goût pour les bouillies de céréales et de légumes. Dans la statuaire, la tradition se traduit par certaines attitudes, comme la posture accroupie, quelques caractéristiques telles la frontalité, le traitement décoratif de la chevelure, la linéarité plutôt que la plasticité, la raideur des traits, ou encore par la présence d'attributs, de vêtements, de bijoux, de motifs décoratifs spécifiques. Mais ces survivances ne restent perceptibles que dans quelques œuvres figurées ou artisanales plutôt rares, qu'elles soient de bois, de bronze ou de pierre. Au sein d'une forte hétérogénéité des répertoires et des styles, la discrimination entre les caractéristiques provinciales et les survivances celtiques reste bien loin de se fonder sur des critères dirimants. Passons à la troisième question. Quels ont été les facteurs et les acteurs principaux de cette romanisation? Je l'ai dit tout à l'heure, un des facteurs essentiels, assurément, a été la municipalisation, où Rome a su prendre en compte les conditions locales avec pragmatisme, tout en respectant les règles juridiques qu'elle s'était fixées. Respect du cadre identitaire à l'échelle humaine, où les élites conservent le pouvoir, et octroie en même temps d'une autonomie relativement large dans les domaines administratifs, politiques et religieux, même s'il ne s'agit aucunement d'indépendance. Eh bien, ces éléments constituent les lignes de force d'un système aussi souple qu'efficace pour favoriser la cohésion sociale et encourager l'adhésion des indigènes aux valeurs romaines. Les notables, bien sûr, ont compté eux aussi parmi les rouages fondamentaux de la romanisation. Par le privilège de la citoyenneté romaine, ils expriment leur pleine adhésion au nouveau régime. Par l'adoption d'un nouveau genre de vie, ils renforcent leur prestige social. Proches des élites de Rome, partenaires de l'État romain, modèles pour leurs pairs, mais aussi pour les classes inférieures, ils se sont rapidement appropriés la culture du vainqueur. Nouveaux adeptes de la vie urbaine, acteurs de l'urbanisation en qualité de magistrats ou d'évergettes, et principaux vecteurs de la romanisation des campagnes par leur attachement à leurs terres, ils ont participé dans une large mesure à la réussite de l'intégration des Gaules. Outre l'octroi de la citoyenneté romaine, on citera encore l'urbanisation, avec la naissance de la ville romaine, un cadre indispensable, encore une fois, au fonctionnement des institutions municipales, mais aussi à l'épanouissement d'un mode de vie nouveau et un décor qui s'impose inconsciemment à tous les membres de la communauté comme la marque d'un ordre supérieur. Mentionnons aussi l'armée, agent de romanisation et de promotion sociale, par le recrutement légionnaire ou auxiliaire, par son rôle aussi dans le processus d'urbanisation et comme stimulus économique et plus largement dans l'acculturation des populations indigènes établies à proximité des camps ou au-delà des frontières de l'Empire. Dernière question, sans la conquête, quelle évolution pour les Gaules? Si la conquête n'a pas été à l'origine de l'harmonisation, si l'intégration n'a pu qu'accélérer et réorienter un processus engagé de longue date, que seraient devenues ces Gaules restées indépendantes? Toutes les conséquences de l'imposition du pouvoir romain se seraient-elles réalisées? Impossible, sinon téméraire et périlleux, de se lancer dans un tel exercice, véritable défi à la science historique. Nous dirons simplement que l'intégration politique et juridique imposée par les armes ne saurait conduire de facto au renoncement de traditions ancestrales. La finalité première de la romanisation a été politique et non culturelle. Même si Rome a toujours disposé et usé de moyens de pression et d'encouragement, elle ne s'est pas attaquée directement aux institutions et aux traditions indigènes qui ne menaçaient pas ou ne gênaient pas son pouvoir. Ainsi, l'abandon des hôpitaux en faveur de sites de plaine, plus favorables au nouvel urbanisme, semble relever davantage d'une décision des autorités locales que de la volonté expresse de Rome. Si l'intégration des dieux ancestraux au panthéon romain a été imposée, la manière de représenter ou d'associer ces derniers à des divinités nouvelles, comme le choix des dieux nationaux, des divinités protectrices, des formes de piété, qu'elles soient collectives, familiales, individuelles, relèvent de la responsabilité des Gaulois eux-mêmes. Il en va de même pour le renoncement des indigènes à exprimer leur génie décoratif ancestral par des formes romaines ou à transposer en latin leur littérature orale traditionnelle. L'architecture officielle ou privée n'a pas interdit les réalisations originales et l'indication des distances en lieu n'avait pas de quoi inquiéter les Romains. Par ailleurs, les cités ont conservé à l'intérieur d'un cadre contraignant certaines marges d'autonomie et de liberté. Une analyse plus détaillée des différents aspects de la vie économique et socioculturelle, qu'il s'agisse de technologie, d'artisanat, de commerce ou d'art, en passant par le costume, l'art culinaire, les modes d'éclairage, que sais-je, permettrait sans doute de relever la grande part d'initiatives laissées aux indigènes. La conquête et l'intégration, loin de conduire à l'étouffement des capacités créatrices des Gaulois, ont contribué à modifier le cadre, le rythme et les finalités. Plus encore que les territoires « barbares » entre guillemets, transfrontaliers, où les prémices d'une assimilation culturelle ont été manifestes, les Gaules, tout en conservant leur indépendance politique, militaire, fiscale et économique, auraient poursuivi leur évolution. Sans aucun doute, la civilisation gauloise aurait changé, et avec elle, les Gaulois. Dans quel domaine ? Ceux de la civilisation matérielle et morale, assurément. Celui de la politique, peut-être, jusqu'à quel point, sous quelle forme, la prudence, bien sûr, incite à laisser toutes ces réponses ouvertes. Alors, finalement, l'intégration des Gaules dans l'Empire de Rome. Une servitude ? Un génocide culturel ? Une fusion harmonieuse entre deux civilisations ? Une réussite éclatante de la politique romaine ? Une mutation inéluctable que la conquête n'a fait qu'accélérer ? Une révolution culturelle ? Assurément, après une guerre dure et meurtrière, aux lourdes conséquences pour les vaincus, par l'intégration imposée des territoires conquis et l'obligation d'accepter les formes politiques, juridiques, religieuses et économiques qui étaient les siennes, Rome, usant du droit du vainqueur, a fait preuve d'intransigeance. Dans ma domaine, en revanche, elle a su se montrer plus souple et plus ouverte, sans rechercher une assimilation à tout prix. Les Gaules, région prospère, en pleine évolution, avec une agriculture florissante, un découpage territorial fondé sur des communautés ethniques, voire politiques, et une première forme d'urbanisation offrait des conditions particulièrement favorables à la réussite de la municipalisation. Au contact des civilisations méditerranéennes, puis par l'action politique de Rome, soutenue par la volonté des élites indigènes séduites par un nouveau genre de vie, les Gaules, en quelques siècles, se sont transformés pour donner naissance à une civilisation nouvelle, fortement marquée, certes, par l'empreinte romaine, mais originale. Alors, faut-il dresser le bilan de toutes les disparitions et regretter une telle évolution ? Il n'appartient pas à l'historien, soumis malgré lui aux idéologies régnantes, de juger. Les Gaulois, à des degrés divers, selon les classes sociales et les régions, en se laissant imprégner, peut-être sans y penser, par un nouveau mode de vie, en participant à leur manière à la romanité, elle-même évolutive et multiforme, ont acquis une nouvelle identité. S'ils peuvent porter la toge dans leur cité, ils sont bien des citoyens romains, mais des citoyens qui restent tout de même attachés sans doute à leurs origines et à leur sensibilité gauloise. Alors une identité personnelle, collective, définie par qui ? Par eux-mêmes, par les historiens, fondée sur quel éventail de références ? Difficile de répondre, faute de témoignages ou de moyens d'analyse suffisamment crédibles, si ce n'est pour affirmer une fois encore l'hétérogénéité des cultures, la pluralité des identités, mais aussi la diversité des romanisations. Je vous remercie.
Merci pour cet exposé très complet, très riche, où j'ai noté 4 points qui peuvent nous être utiles pour ventiler un peu la discussion. Le premier, évidemment, est le plus vaste. Vous avez comparé, évidemment, les changements induits dans tous les domaines. Vous l'avez exposé avant de poser les questions, évidemment, que tout le monde attendait sur le problème de l'héritage. Alors commençons, si vous le voulez bien, par les changements, pour voir si tout le monde est convaincu, accepte ces changements que le colloque vous propose et qui ont été résumés ici. Changement politique d'abord, municipalisation, urbanisation qui est liée à cela. Est-ce que quelqu'un se lance tout de suite? Ou est-ce que je peux continuer en attendant que la parole se libère? Vous dire que j'ai été très intéressé par le fait que toutes les civitates qui sont fondées à ce moment-là, sous leurs différentes formes, elles ne sont pas uniformes, ne se fondent pas dans la paix non plus. Il serait très intéressant d'avoir des documents locaux tels qu'on peut les reconstituer parfois avec tous les aléas de ce genre de reconstruction, quand on voit comment un territoire évolue et se transforme en cité. On voit dans certains cas, on avait essayé de le voir chez les Trévires, par exemple, qu'une partie des Trévires n'a pas participé manifestement, l'élite évidemment, pour des raisons qui nous échappent, militaires, économiques, c'est peut-être antérieur déjà, mais c'est une rive de la Moselle qui a gagné contre l'autre, en gros. Et manifestement, ce genre de situation devait être assez fréquente, et ça se redécouvre quand on fait l'analyse des documents. Donc je crois que c'est très intéressant de montrer que, vous l'avez dit, ce n'était pas si pacifique que cela, même chez les collaborateurs, si vous voulez, qu'il y avait les vieilles forces internes qui se disputaient les nouvelles formes. Et ça peut être lié aussi à ce problème qui a déjà été abordé, le rapport ville, le chef-lieu, oppidum, etc. Quand nous parlons d'oppidum, lieu de résidence et de production, sans doute moins de problèmes, mais quand il s'agit d'oppidum, siège de pouvoir, symbolique de réunion et de lieu où un peuple parlait, jugeait, concélébrait, à ce moment-là, il devait y avoir des enjeux. Et là, on voit certains qui disparaissent, d'autres qui se transforment, d'autres qui continuent sous une forme diminuée parce que d'autres événements se sont passés. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. Oui. Et puis après.
Pour aller absolument dans ton sens, je crois qu'il faut regarder ce phénomène qu'on appelle romanisation. Sous deux angles. Bon, il y a l'angle matériel que nous cernons, mais il y a aussi un angle, on dira, sociopolitique que certains textes ou que certaines inscriptions nous font retrouver. Et il est clair que durant tout le premier siècle, enfin une grande partie du premier siècle avant Jésus-Christ, il y avait deux séries de Gaulois, les uns qui étaient proches des Romains et les autres qui étaient contre. On le voit très bien dans plusieurs familles, chez les Allobroges, chez les Vaucons, pour parler que de la Narbonnaise. Et ensuite, on aura l'exemple de Divicios, Divicacos et de Dumnorix. Et César a l'air de trouver que c'est quelque chose d'absolument normal qui est habituel chez les Celtes. C'est-à-dire une famille se partage entre les deux possibilités possibles. C'est-à-dire il y a un frère de gauche, si j'ose dire, et un frère de droite pour parer à toutes les éventualités. Mais ça peut aller très loin. Ça peut se terminer par des mises à mort mutuelles, par clan contre clan. Alors, donc le phénomène, à mon sens, est infiniment plus compliqué qu'on ne saurait à partir de simplement César et quelques textes le reproduire. Je crois qu'il y a eu des déchirements qui ont été extraordinaires à ces époques-là. Des fidélités portées à tel ou tel, Pensons par exemple ceux qui sont décidés en faveur de Sylla ou en faveur de Marius, et Christol a écrit des choses remarquables là-dessus, et puis après César et Pompée, et puis après il y a dû en avoir d'autres. Et alors, c'est pas effectivement par les vestiges matériels qu'on peut se rendre compte de ça, mais personnellement, moi, je suis absolument persuadé qu'il y a eu des déchirements qui sont produits bien avant les conquêtes, que des problèmes comme celui de l'esclavagisme a dû provoquer des traumatismes qu'on n'imagine pas, et que la société, finalement, à partir de je ne sais pas combien, à partir du moment où on voit l'expansion monétaire, on voit peut-être la zone du denier contestée par certains, où on voit le grand phénomène des amphores, la société a dû être une société complètement déchirée, et c'est peut-être d'ailleurs ce qui peut expliquer certains phénomènes de redistribution, d'évergétisme, comme on voudra, ou de potlatch, mais il ne faut pas imaginer ces époques-là comme des époques de calme où, comme tu l'as dit, une espèce de romanisation plaisible interviendrait par l'intermédiaire des marchands. Pas du tout.
Très bien. Il y avait monsieur qui demandait la parole. Ça y est, la parole se libère. C'est bien.
Oui, je suis tout à fait d'accord sur le côté brutal de ces problèmes d'assimilation. Xavier Lafont, pardon. Il y a deux choses sur lesquelles je crois qu'il faut qu'on insiste. D'une part, c'est en effet un phénomène de longue durée, et l'héritage, ça se justifie. Enfin, c'est pas ni à l'époque de César, ni à l'époque d'Auguste, ni à l'époque des Flaviens qu'il faut le voir, mais c'est sur la longue durée. Et le phénomène n'a cessé de se modifier, de s'amplifier, de se transformer. Et je crois que c'est la grande erreur qu'ont souvent les proto-historiens quand ils parlent de romanisation, c'est qu'ils ont l'impression que tout est figé à Rome dès le début. On l'a déjà dit ce matin. Mais je crois que cette idée-là, il faut absolument l'abandonner. La transformation, elle est permanente. Et la romanisation est un phénomène permanent, il faut en parler ainsi. Et la deuxième chose sur laquelle je crois qu'il faut qu'on insiste aussi, pour nous c'est clair, il y a eu très peu de Romains qui sont venus en Gaule. Donc c'est bien un phénomène local de transformation des sociétés, des modes de vie qui s'est effectué. Mais la grosse question qui reste, c'est de savoir comment... Malgré tout, on parle d'autorité romaine. Et il y a une sorte de contradiction, une sorte de liberté qui est laissée à certains individus avec tous les conflits internes qu'il peut y avoir dans chacun des groupes. Et en même temps, l'idée qu'il y a une idée commune, une idée qui est imposée ou des modèles qui seraient imposés par Rome, je crois que là, il y a une contradiction qu'il faut qu'on arrive à dépasser, c'est-à-dire essentiellement essayer de voir par quels moyens ces idées romaines peuvent arriver, peuvent être adaptées, peuvent être rejetées, parce que précisément ce n'est pas un bloc qui arrive tout fait, mais c'est tout ça. Et donc il y a une interaction incontestable entre ce que les Gaulois voulaient et ce qu'éventuellement ils étaient prêts à faire pour accepter un certain nombre d'idées romaines qui leur étaient imposées de l'extérieur. Et ça, cette auto-transformation, je crois qu'on n'en a pas forcément suffisamment conscience. Juste un point de détail, il y a des tas de nouvelles idées qui arrivent, et je crois que ça peut aller dans des domaines extrêmement élevés, je dirais la politique des cités, etc., mais ça va aussi avec des idées beaucoup plus élémentaires. Je crois que, par exemple, les décors de la céramique sigillée, c'est quand même tout à fait étonnant que ça soit des décors purement romain ou classique, il n'y a strictement aucune trace de... Hatt avait essayé de montrer le contraire, mais précisément, je crois que c'était un fiasco total dans ce domaine-là. Il ne reste strictement rien de l'héritage gaulois dans des produits de grande diffusion qui sont... Alors, est-ce que c'est parce que ça doit être vendu au-delà des limites du monde gaulois et que ça n'intéressait personne d'autre, ou est-ce que c'est un phénomène d'auto-assimilation? Je crois que là, il y a toute une série de questions qui restent posées dans cette perspective des changements.
Monsieur. Oui, je voulais juste dire concernant cette sigillée qui est un point parmi d'autres, On a bien l'impression que c'est un choix des artisans. On voit mal Rome imposer des décors. On veut faire une céramique romaine pour faire romain et vendre une céramique romaine. C'est un peu... Pardon. Oui, absolument. 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 Pourquoi aussi les auteurs d'origine gauloise, comme Franck Pompée, quand ils écrivent, ne parlent jamais de la Gaule, si ce n'est pour, comme les Romains, les auteurs romains, rappeler le sac de Rome et ce genre d'exploit. C'est un peu étonnant. Ils auraient pu libre de raconter quelques éléments concernant leurs origines, leur patrie. Ils ne l'ont pas fait non plus. On a des tas de domaines comme cela où on a l'impression que les indigènes ont effacé leur passé librement, on ne les a pas obligés. C'est un phénomène intéressant sur le plan social.
Il faudra attendre le 4e, 5e siècle pour que Ozone le fasse. Monsieur qui demande la parole depuis longtemps.
Domergue.
Ah, c'est Domergue.
Bien, oui.
On voit mal.
C'est... Eh bien, je ne sais pas si Béatrice Coé est par là. Ça m'étonne, elle n'est pas là, elle serait intervenue sûrement puisqu'elle était co-auteure de l'article que nous avons donné à Lausanne. Alors, sur ce premier thème de la rupture avec le passé, je crois que dans le domaine des mines, c'est vrai. Rome, l'autorité romaine, s'est appropriée des mines, même si elle en a laissé à des communautés, à des populations, à des civitates. Elle le faisait de son plein droit. Mais il y a un exemple que tu as cité, c'est l'exemple des mines d'or du Limousin qui est vraiment emblématique. Ces mines d'or sont riches, elles fonctionnaient bien, elles étaient aux mains des Lémovis, ils produisaient de l'or. Où est allé cet or, je ne sais pas, mais il y en avait et il y avait encore des réserves, 300 tonnes si je ne m'abuse, d'après les évaluations modernes, ce qui n'est pas rien. Or, du jour au lendemain, ces mines sont fermées, comme disait Tite Live, à propos de la Macédoine. Leur fonctionnement est arrêté. Les Lémovis n'ont plus rien à faire là-dedans. C'est, je pense, un choix de stratégie économique, tu l'as exposé, comme nous l'avions fait, n'est-ce pas, préférant les grandes exploitations du nord-ouest de l'Espagne à ces petites exploitations qui auraient été sans doute productrices. Et là, il y a un arrêt, non seulement de la production, mais un arrêt dans la suite des techniques. Tu as dit qu'effectivement, il y avait une haute technicité dans le travail de la mine chez les Celtes, chez les Gaulois. Moi, j'en suis persuadé. Après les travaux de Béatrice Coé, on ne peut que le voir. Mais ces techniques ont subi, il y a un exemple qui est tout à fait remarquable, c'est l'exemple du début de l'exploitation du Sudon. Je ne l'avais pas abordé, ça, à Lausanne. Je viens de m'en apercevoir maintenant. En gradin, qui est remarquable, parce que ça facilite l'entrée dans le filon, ça évite les éboulements, ça permet de voir s'il y a des filons satellites tout autour, mais cette technique-là, on ne la voit plus. Elle n'existe pas ailleurs dans le monde romain. On va la retrouver au XIXe siècle, avec l'ouverture des carrières sur les grands gisements miniers dans le sud-ouest de l'Espagne, sans parler de Chuquicamata au Chili. Ce sont des choses tout à fait différentes, mais la technique est arrêtée. On ne la voit nulle part ailleurs. Donc je pense qu'il y a un très très gros changement. Rome s'approprie, Rome tranche et coupe. Tu as passé sous silence, je sais bien que c'est très... contestable ce que nous avons... Enfin, ça peut être contestable ce que nous avons avancé. Parmi les co-signataires de cet article, il y a Jean-Marie Payet, qui est mon collègue à Toulouse, mon collègue et ami, et qui s'est aventuré dans le domaine de la toponymie et du vocabulaire gaulois. Et il a cru déceler à travers des toponymes, Argentorate, Argentomagos, etc., des toponymes liés à la commercialisation de l'or, à condition que la salle accepte que Argenton en celtique signifie l'or. Tout le monde ne sera peut-être pas d'accord, mais il semble qu'il y ait des éléments positifs là-dessus. Et il y a les toponymes d'une part, et il y a les magistratures, enfin, les anciennes magistratures civiques ou civiles, dont on a la trace, par exemple à Grofezenque, avec l'Argentodanos, Cassidanos, Argentodanos, que l'on retrouve aussi chez certains peuples du nord de la Gaule, dans la Gaule celtique. Alors, est-ce qu'il y avait une organisation de la production et de la diffusion du métal supra au-dessus des peuples, si vous voulez, au niveau de l'organisation de la Gaule? C'est le problème que posait Jean-Marie Payet, et je le repose maintenant. Voilà, merci.
Oui.
On a vu que la romanisation n'est pas la même en toutes les régions, mais qu'il y a beaucoup de différences, etc. Et peut-être je peux parler sur une situation spéciale dans la zone très proche aux Germains, dans la Hesse et dans la région de sud-ouest de l'Allemagne, où il y a, d'après les guerres contre les Germains, de Germanicus, etc., etc., et autres, il y a une dépopulation dans cette région, et ils sont venus dans cette région des Gaulois, d'Apertou, de Gaulois. Nous le pouvons voir parce que les noms, les inscriptions font voir que sont celtes. Mais ces celtes ne sont pas plus organisés des tribus avec des personnes qui tribus sont responsables pour une communauté, mais ils sont venus d'partout, et ça, ce sont les meilleurs Romains dans cette zone, une population celtique, mais maintenant sans des liaisons romaines.
Merci. Christian Goudineau voulait très brièvement intervenir sur les mines.
Non, simplement, j'ai demandé à Domergue, est-ce que tu as de l'argent sur toi ? Eh bien, tu vois. Non, mais c'est un problème vieux comme le monde, à savoir comment est-ce qu'on désigne un numéraire, est-ce que c'est un métal, est-ce que c'est autre chose, est-ce que c'est un aspect, Argentos, on dit, c'est plutôt ce qui est brillant, est-ce que c'est spécialisé? C'est pas du tout évident, dans plein de langues du monde à l'heure actuelle, on dit tu as de l'argent. Ou l'équivalent. Et l'équivalent, ça peut être de l'or, du cuivre, n'importe quoi. Donc, je suis pas sûr que les toponymes, effectivement, se soient focalisés sur la nature du minerai, mais plutôt sur le fait que c'était une source de richesse ou qu'il y avait une certaine apparence qui le distinguait par rapport aux autres.
En marge de la quatrième question que M. Pomenet a discutée, je me demande si moi je n'aurais pas posé une cinquième question qui n'est pas aussi hypothétique que ça, non pas que se serait-il passé dans les Gaules s'il n'y avait pas eu la conquête de César, mais qu'est-ce que les archéologues pourraient nous dire de l'évolution de la Gaule s'il n'y avait pas le texte de César et toute la littérature gréco-latine. Donc je rejoins un peu et même beaucoup la suggestion de M. Goudineau, c'est que certainement l'assimilation qui est traduite par la romanisation apparaît tout de même un peu tardivement. Si on doit tenir compte, si j'ai bien compris, surtout de l'épigraphie gallo-romaine qui nous présente des élites intégrée, et je me demande si on ne faut d'abord cette épigraphie gallo-romaine à quelle date intervient-elle? C'est vraiment la fin du 1er siècle avant, et donc elle ne nous permettrait pas de situer exactement dans la chronologie la conquête de César. Et deuxièmement, j'apporterai quelques modifications personnellement à votre présentation de la psychologie du Gaulois romanisé. Est-ce qu'il fait ça pour le plaisir, par conformisme pur et simple, ou est-ce qu'il n'a pas en fait été terrorisé par l'expérience de la conquête et tout ce qui allait avec, les massacres, l'asservissement en masse, la levée de tribus énormes, vous voyez? Et pour le Gaulois qui avait quelques biens, finalement, sauver les meubles ne pouvait se comprendre qu'en acceptant le nouveau mode de vie. Oui, voilà. Donc, si vous voulez, qu'est-ce que les archéologues pourraient nous dire s'il n'y avait pas le texte de César, à la fois conquérant et historien?
Bah, une fois de plus, on aurait fait des constatations matérielles. On aurait fait des constatations matérielles sans savoir dans quel cadre politique, juridique, elles se situent. Si les Gaulois avaient adopté de toute manière les temples classiques, les divinités classiques, la sculpture gréco-romaine, etc., on pourrait dire simplement qu'ils se sont acculturés au sens que disait Michel Batz l'autre jour, mais on n'aurait évidemment aucun élément concernant une guerre qui aurait réduit les Gaulois de sujet romain, c'est bien évident. On a la chance d'avoir des textes, on a la chance d'avoir des documents qui permettent d'intégrer cela dans une politique générale de Rome. En ce qui concerne ces Gaulois qui n'ont peut-être pas pu faire autre chose que d'accepter la conquête, il faut quand même bien penser que les élites dans l'Antiquité et les élites autour de Rome étaient, je ne veux pas dire le mot de mafia, mais je veux dire, c'était des gens qui avaient des contacts, des intérêts communs. Et Rome a eu l'intelligence de se fonder sur ses relations, sur ses intérêts communs, partout. Ce n'est pas seulement un problème gaulois, mais dans l'ensemble de ses conquêtes, on a toujours des discussions, des contacts avec les élites. Et ces élites, naturellement, pour sauver les meubles, si vous voulez, pour conserver leurs privilèges, ils ont été facilement du côté de Rome. Je crois que le problème de l'indépendance nationale se posait dans d'autres termes dans l'Antiquité. Alors bien sûr, en Grèce, dans les États grecs, quand Démosthène prononce ses discours contre Philippe, il s'agit bien de défendre la liberté et l'indépendance absolue. Mais dans les Gaules, selon les classes, on était certainement d'avis très différents. Et je pense que les élites étaient déjà très proches de Rome et prêts, entre guillemets, à faire le saut. Bien sûr, ceux qui ont été contre César ou contre Rome, même parmi les élites, on n'a pas fait le détail. On les a tués, on les a condamnés. Rome pouvait user du droit du vainqueur antique, qui est terrible. Vous pouvez incendier une ville prise, violer les femmes, emmener les gens en captivité. On peut aussi, si la population résiste à Rome, on peut, comme l'ont fait même d'excellents empereurs, philosophes comme Marc Aurèle, détruire le peuple des Sarmates. C'est une solution, c'est une possibilité. Bon, Rome, Dieu merci, ne l'a pas fait avec les Gaulois, parce qu'il y avait justement déjà un mouvement de transformation, d'acculturation, des échanges, des marchands, des intérêts communs, qui ont fait que l'élite a marché, et derrière l'élite, tout le monde a fini probablement par marcher, mais il est probable qu'au départ, peut-être que les petites gens étaient contre, mais ce n'est pas les petites gens qui, à l'époque, faisaient la politique. Bon, aujourd'hui, je ne me prononcerai pas.
Oui, je voulais abonder dans ce sens, en fait, et réagir à une remarque que Daniel Pougny avait faite, mais il vient lui-même d'offrir des prolongements. Il posait la question de savoir, il disait, ce n'est pas vraiment la romanisation, la conquête qui a assumé la romanisation. Mais que s'est-il passé? Alors, avons-nous rêvé? Pas du tout. La question que nous nous posons maintenant est une question d'historien, et nous apportons des réponses qui sont prudentes. Mais en d'autres temps, certains ont bien compris ce qui s'était passé. Par exemple, Napoléon III, un beau jour de 1865 à Alger, fit un discours complètement invraisemblable aux Algériens en leur disant « Bien sûr, vous êtes soumis, mais regardez ce qui s'est passé en Gaule. Nous avons été aussi soumis, nous sommes pliés à l'ordre romain, mais qu'en avons-nous retiré comme bénéfice ? Alors vous aussi, vous allez en retirer certainement un jour un bénéfice, et peut-être votre civilisation en dépassera-t-elle celle qui vous a soumise ? C'est doublement absurde, puisqu'il est en train de se condamner lui-même. » En 1940, 41 et 42, des discours ont été tenus par disons, les autorités qui collaboraient sur le thème de la bonne défaite. L'ordre nouveau s'installe, c'est ça que la bonne défaite nous a apporté, comme cela s'était passé à Rome. Donc vous voyez, il y avait chez certains interprètes de la conquête romaine l'idée que quelque chose de positif pouvait être retiré de tout ça. Mais par quoi cela passait-il ? Quelle était la contrainte ? Il faut bien de la violence pour imposer quelque chose. Quelle était cette violence ? Eh bien, cette violence, me semble-t-il, avoir le soin que Rome a apporté à la gestion des institutions politiques, avoir le soin avec lequel Rome a pris contact avec ses élites, c'est ce que vous venez de dire maintenant, avoir le soin avec lequel Rome a pris soin de transmuter les institutions vaguement indigènes, vaguement établies, pour en faire quelque chose d'extrêmement structuré et de parfaitement opérationnel. Je pense que c'est donc au niveau de la sphère du pouvoir que se trouve essentiellement le mécanisme de la romanisation, et non pas tellement au niveau de la culture, puisque là, on en reviendrait à des débats qu'on a déjà eu à propos des Celtes, c'est la même chose, mais à l'autre extrémité du phénomène, il ne faut pas chercher quel est l'héritage de la Gaule, il faut voir ce qui a été transformé, ce qui s'est créé de neuf. Mais par contre, au niveau politique, là, évidemment, la conquête du pouvoir a été totale et absolue. Et Rome a su fabriquer ce mécanisme en s'appuyant sur les élites. Alors, à partir de là, le raisonnement plus général peut être le suivant. Quelle est l'importance de ce phénomène ? Eh bien, c'est que ce phénomène est général. Alors, ce n'est pas seulement la prise de pouvoir au niveau des magistratures, c'est la composition des collectivités locales, c'est la composition des collectivités territoriales, si on peut les appeler comme ça à l'époque. C'est donc un phénomène général. Donc, ce que je pense, c'est que Rome a inventé quelque chose de violent, a su le localiser au niveau exact où il était efficace, c'est-à-dire au niveau de la fabrication des instruments du pouvoir, et lui a donné une extension qui était parfaitement circonscrite au territoire gaulois. Ce que je veux dire par là, c'est un héritage très important. Quand on se pose la question aujourd'hui, quel est l'apport, par exemple, de la génération politique Mitterrand, savoir inventer l'alternance, c'est quelque chose qui ne s'inscrit pas dans les textes, c'est une pratique nouvelle qui est apparue. Eh bien, je pense effectivement que quelque chose de nouveau et de non inscrit dans les textes est apparu comme ça à l'époque de la romanisation, c'est d'avoir su inventer le politique. Rome a politisé les Gaulois. Et paradoxalement, hein, ça peut nous servir de point d'appui pour une réflexion, je me demande si ce n'est pas par cette politisation de la société gauloise que la conquête n'a pas inventé, pour la première fois, la Gaule.
Just something with the Bernardo Stempel, something with regard to religion. I have evidence that the Gauls had already adopted the main deities, the main Greco-Roman deities, before the Roman conquest. And because of the most of the theonyms which are involved in cases of Interpretatio Romana or Indigena, are actually cases of, we could say, Translatio Celtica. They translate the epithets from Mediterranean deities, sometimes the Greek form of the epitheta, so that one can assume that they learn to know them in the Narbonensis and probably also in Italy, in Etruscan Cercani, and that they subsequently translated their epitheta to make them understandable to the local population. And that later on, with the Romanization, they were also venerated with the Latin, under the Latin names, but many Many names like Atepomaros are actually just translations in the case of Greek Boedromios and so on. There is quite a lot of evidence. I'm afraid my work is still in print, so I can't say when it's where it is going to appear, but it's not already readable. Thank you.
Très bien. Il y avait une question là-bas.
On entend bien le modèle d'occupation civilisatrice, mais est-ce que ce qui n'est pas caractéristique, c'est la longévité de l'occupation ? Parce que 5 siècles, ça fait beaucoup, mais ça a fini par se terminer. Donc on sait qu'il y avait effectivement peu d'occupants pour maintenir l'ordre. Mais la question, c'est qu'il y avait peut-être des résistances. Alors, comment peut-on en faire état ? Et c'est quand même étrange que si les Romains ont fini par partir au bout de 5 siècles, c'est qu'ils n'étaient pas quand même complètement installés. Et il devait bien rester quelques résistants, même s'ils n'étaient pas nombreux.
Bon, on entre là dans les problèmes de la chute de l'Empire que nous n'avons pas traité naturellement. On a vu le début de l'évolution de la société. C'est un problème externe, un problème de la Gaule. La chute de l'Empire, bon, la Gaule, on a subi les conséquences, bonnes ou mauvaises, selon les points de vue. Mais nous entrons là dans un problème que nous n'avons pas discuté en son temps. Simplement, il faut dire pour compléter encore ce qui a été énoncé à propos des élites, c'est que les élites jouaient le rôle de garant de la stabilité sociale et politique dans les cités pour Rome. Si Rome s'appuie sur les élites, c'est pas seulement parce que ce sont des amis et pour les favoriser avec l'octroi du droit de cité, etc., mais c'est des gens qui, à la place de gendarmes ou de l'armée romaine, maintiennent des cadres sociaux, une hiérarchie et un sentiment de stabilité indispensable. Raison pour laquelle il n'a pas eu besoin d'avoir des milliers de soldats romains en Gaule pour maintenir l'ordre.
Et si je peux me permettre d'ajouter un mot, souvent sur place, dans les cités, Rome, ça s'appelait Monsieur le Notable local, qui non seulement au début de notre ère, était citoyen romain, déjà depuis une génération, peut-être parce que papa avait été avec César ou d'autres, mais parce qu'il était chevalier romain. Il avait déjà des responsabilités très élevées dans l'armée, par exemple romaine. Et c'est ça, le vrai pouvoir romain sur place, c'est-à-dire une partie des Gaulois qui ont choisi le parti romain pour s'imposer sur place, pour régler leurs propres petites histoires, etc. Et puis, il ne faut pas oublier ce qu'était la guerre, la notion de clémence, etc., dans le monde romain. La guerre était violente à Rome, en Italie, en Gaule et partout, et ça se traduisait toujours par des massacres. Il y a une formule magnifique d'Auguste dans les Res Gestae, où il parle de notre époque, où il dit « Bon, j'ai préféré pardonner à un certain nombre de peuples plutôt que de les exterminer, parce qu'on pouvait être sûr qu'on pouvait vivre en sécurité avec eux. » Ce qui veut dire, en clair, si jamais il n'y a pas la garantie qu'ils se tiennent tranquilles, on les extermine. Excidere, le mot latin, a des relents nazis, n'est-ce pas ? C'est très fort. Hein. Donc, il ne faut pas l'oublier. Il faut pas. On n'est pas entré à l'école maternelle. Mais
Oui, je voulais poser justement le problème du rythme, Gérard Robin, du rythme de la romanisation. Et on n'a pas beaucoup entendu, effectivement, le mot de génération. Dire en d'autres termes, combien est-ce qu'il faut de générations pour qu'une cité, disons, soit romanisée ? Est-ce qu'on peut l'estimer ? Parce qu'on peut imaginer qu'effectivement, au bout de 2 générations, le fils du fils de celui qui a connu la conquête n'a peut-être pas d'autre possibilité que de vivre dans un... Il vit dans un monde qui change, donc, que de vivre dans un monde qui se romanise sans qu'on n'y puisse rien. Prenez, je ne sais pas, la Bretagne d'Elias, qui peut choisir de retourner vivre avec de la terre battue ou dans un monde sans eau chaude. Bon. Ceci dit, comment est-ce que l'archéologie peut dater un peu plus finement cette romanisation et ce passage ? Est-ce qu'il y a un moment, est-ce que ça se fait de façon très progressive, on n'y peut rien ? Ou bien est-ce qu'il y a un moment où ça bascule ? Alors quels sont les critères? Est-ce que ce sont des critères d'importation de mobilier archéologique? Et à partir de quel moment? Comment est-ce que, en archéologie, on peut en juger? Est-ce que ce sont des critères de mode de construction? Est-ce que c'est l'urbanisation? Et encore, quelle urbanisation? Est-ce que ce sont, ce qu'on commence à voir, une implantation urbaine, une proto-ville? Ou bien est-ce que c'est un quadrillage beaucoup plus strict qui se met en place plus tard? Bref, il y a peut-être des tas de critères. Moi, je suis frappé de notre difficulté actuellement de les préciser. On lit beaucoup dans des articles, par exemple, romanisation précoce ou augustéen précoce, qui sont des termes qui ne veulent pas dire grand-chose et qui cachent sans doute notre ignorance. Mais je pense que ce n'est pas une problématique de savoir beaucoup plus finement ce qui s'est passé entre moins 50 et plus 50.
C'est précisément tout le problème des romanisations, c'est-à-dire que tout au cours de notre exposé, de mon exposé qui résume les discussions de la table ronde de Lausanne, c'est précisément la diversité des situations, la diversité des rythmes également de romanisation. On a aussi remarqué pour l'épigraphie des régions, même en Narbonnaise où les inscriptions sont rares, etc. Il faut simplement éviter les généralisations. Alors, quels sont les critères dont nous disposons pour essayer d'évaluer le rythme de cette transformation de société? Il faut remonter à l'Athènes finale, déjà. On a des choses qui changent au cours du temps. Alors, il faut se voir dans quel domaine cette romanisation veut être saisie. Sur le plan des constructions, alors, bien sûr, l'archéologie peut dater les constructions, peut marquer le passage des constructions en terre ou partiellement en terre, l'utilisation de la tuile, de la brique, l'apparition de matériel d'échange romain ou méditerranéen, tout cela se date, je ne vais pas entrer dans les méthodes de datation ici, on peut voir véritablement un changement dans les villes, on peut dater les bâtiments, on peut dater les monuments, on peut dater, on a pu dater à peu près la basilique de Bibracte, etc. On peut, sur le plan de l'épigraphie, bien sûr, voir ces changements. On a dans l'épigraphie des exemples très illustrants où on a des Gaulois qui, en une génération ou deux générations, changent complètement de nom au point qu'il est impossible ou il serait pratiquement impossible de voir qu'ils étaient d'origine gauloise. Le plus bel exemple, c'est celui de l'Arc de Sainte, n'est-ce pas, où l'on voit un changement en quelques dizaines d'années, probablement. Sous Tibère, Julius est romain, si l'on lit son nom. Alors, je crois que c'est la concordance des différents types d'événements, de sources. On ne va pas dire que telle ville se romanise à partir, ou est romanisée à partir d'Auguste. Bibracte, il y a des maisons augustéennes de type parfaitement méditerranéen. Est-ce que toute la population est romanisée? Certainement pas. Il y a un courant qui est en route, il y a une élite probablement qui se met à vivre à la romaine, qui veut créer une ville romaine. Donc je crois que ce sont encore une fois des diversités des situations, mais aussi la prudence dans les généralisations qu'il faut pratiquer tous les jours. Alors quand on vous dit, bon, cette ville est romaine à l'époque augustéenne, non, il y a peut-être des tendances. On a par exemple observé à Saintes, en regardant simplement dans les réserves du musée de Saintes, les éléments d'architecture, décorés, etc. Une ville de Saintes, qui est une ville d'Aquitaine, qui marque une continuité entre... Pardon, qui est une ville nouvelle. Et alors, on voit que parmi tout ce matériel architectonique, la transformation des styles, la transformation du message sculpté, est comprise entre l'époque augustéenne puis la fin de l'époque julio-claudienne, si l'on veut. Ville d'Aquitaine aussi, à Périgueux, on fait le même travail. On n'a que deux éléments qui datent de cette période. Tous les éléments d'architecture sont d'époque antonine. Alors, point d'interrogation, pourquoi ce décalage entre deux villes qui sont voisines, dans une même province? Alors, on constate, c'est un élément parmi d'autres, il ne faudra pas, sur la base de cette transformation de l'architecture ou du décor architectural, décréter que Saintes est enfin romanisée et Périgueux n'est rien à côté. C'est une ville gauloise qui n'a pas connu encore d'acculturation sérieuse.
Thierry Lepère, je voudrais juste quand même qu'on remette un petit peu les choses en perspective. On voit notre débat là passe un petit peu par le petit bout de la lorgnette. On parle de conquête en pensant en guerre des Gaules, on parle d'occupation sur 5 siècles, mais si on voit ça par l'autre bout, par le bout romain, c'est l'amorce d'un processus qui s'est engagé au moins dès le courant du 3e siècle avant Jésus-Christ. Certains secteurs ont été, pour employer le terme utilisé tout à l'heure, occupés au moins jusqu'au 15e siècle. D'autres secteurs qui étaient ou qui auraient pu être qualifiés de Celtes ou Gaulois n'ont jamais été, à contrario, sous contrôle direct du monde romain.
Dick Whittaker, je voulais peut-être retourner à la question de Civitas et le rythme de Civitas et aussi sous l'optique des frontières. Ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est qu'en Germanie supérieure, on a eu un rythme très très vite pour répondre à la question qui a été posée juste avant. Là, on a trouvé des Vikis qui sont allés avec les fondations, les petits camps militaires, et les Vikis à côté, qui étaient fondés peut-être vers la fin du premier siècle après, et tout d'un coup, avec Trajan, ces Vikis sont devenus municipia, immédiatement, presque immédiatement, c'était dans une génération. Et ça s'est très très vite. Pourquoi? Parce que c'est la Civitas qui est venue avec la municipalisation a fait une stabilité très importante pour les frontières. Et avec ça, est allée aussi à toute la population qui était inclue. Ce n'était pas seulement une population gauloise, mais il y avait aussi quelques Gauloises, probablement vétérans, mais aussi des populations qui se sont transférées au-delà des anciennes frontières. Mais quand même, ce qui m'a impressionné beaucoup, c'était la rapidité de cet développement, et qui était évident, c'est un instrument des frontières. Et avec ça, je voulais faire un contraste qui, à mon avis, j'insiste, c'est très très important, entre le fait qu'il y avait là une sorte de frontière juridique, mais en même temps de la culture de gauloise, la culture gallo-romaine, ou la culture romaine, qui sait, a traversé beaucoup les frontières, au-delà des frontières, beaucoup. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte d'échange, chevauchement des populations, les Germains qui sont venus à ce côté-ci et la culture romaine qui est allée au-delà. Mais ça c'est la culture, mais les frontières juridiques n'étaient jamais franchies. Et ça c'est très important. Vous étiez romain parce que vous étiez civis romain. Et ça, c'est pour moi, c'est l'important du point de vue de l'ethnicité, du point de vue de romanisation. C'est une formalité. Et pour ça, il n'y avait aucune question d'avoir une ambiguïté. Il y avait toujours, c'était toujours une question absolument claire. Et avec ça, ça a duré jusqu'au Bas-Empire, quand tout le monde dans l'Empire romain est devenu civis. Et après cela, c'est une ironie qu'avec cette civitas, c'est venu une sorte de dégradation des droits.
Pour aller dans le sens de Whittaker avec un exemple tout à fait contemporain, j'ai l'habitude de temps en temps d'aller déjeuner dans un restaurant chinois. Bien. Le gérant de ce restaurant a été naturalisé français. La semaine dernière, il me dit « qu'est-ce qu'on a bien joué ?» On venait de gagner contre le Togo. Bon. Et j'ai eu un moment d'incrédulité absolue en me disant « mais qu'est-ce qu'il veut me dire ?» Et j'ai compris que ça voulait dire « nous, les Français ». Ben, on peut réfléchir un peu à ce type de phénomène. Et effectivement, Dick l'a dit, à partir du moment où on est citoyen romain, on change de tout.
Il
y a actuellement en Allemagne des découvertes au-delà du limès tout à fait extraordinaires qui confirment ce que Dick disait sur la rapidité de l'intégration par la construction de cités qui un jour seraient peut-être devenues des municipes à Waldkirmes, où tout de suite l'armée construit une ville pour fixer des gens. Après, avec les statues monumentales et aux dernières informations, donc passe Varus et ses petits amis, ils sont revenus. C'est-à-dire qu'Auguste n'a jamais considéré l'Allemagne jusqu'à l'Elbe perdue. Pour lui, ça continue. C'est Tibère qui semble avoir mis fin à cela, pas tellement à cause des Germains, mais à cause de l'instabilité de l'armée du Rhin. On atteignait là les limites de la puissance romaine, en fait. Et les Romains, après 9, étaient revenus. Ils étaient en train de reconstruire. C'est incroyable, enfin, cette obstination et la rapidité. Donc, ce qu'ils font dans un lieu très dangereux, vous pouvez imaginer ce qu'ils faisaient dans des zones qu'ils considéraient comme pacifiées. On a là des modèles. On n'a plus seulement le texte de Tacite, Agricola, mais on le voit sur le terrain. Ensuite, là-haut.
Oui, pour aller dans le sens, Olivier Buxenschütz, pour aller dans le sens de Gérard Aubin et de la dernière remarque de Christian Goudineau, je pense qu'il faut faire très attention. D'abord, on garde inconsciemment, malgré tout, dans notre tête, l'opposition celte-romain, alors qu'on a déjà dit ce matin que l'Italie, c'était pas Rome tout à fait, etc., que donc il n'y a pas une opposition aussi nette que ça. Et d'autre part, il y a la chronologie. Entre les Cimbres et les Teutons, la conquête de César et la création de l'Empire, il y a plusieurs générations. On pourrait comparer ça à la guerre de 14, la guerre de 40 et la création de l'Europe, qui se font sur des bases complètement différentes, avec des violences à peu près aussi remarquables que celles des Romains. Et donc, je crois qu'il faut bien voir qu'on n'a pas affaire à la même génération, et que autant il y a une guerre, effectivement, entre un général romain qui est César et un certain nombre de Gaulois, mais pas tous, autant au moment de la création de l'Empire, je ne crois pas qu'on puisse opposer les Gaulois de Gaulle aux provinciaux italiens, aux Espagnols ou autres. Je pense que c'est des gens qui, en majorité, ou la majorité de leurs élites, participent à la création de cet empire, qui est quelque chose de nouveau et qui n'a pas grand-chose à voir avec la conquête. Alors ensuite, dans la période intermédiaire entre 50 et Auguste, disons, la fondation d'Autun, pour prendre un exemple de modification architecturale très forte, il se passe une période de 20 ou 30 ans, qui est en fait, pour reprendre le terme de ce matin, des oppidas, l'époque où les oppidas de Gaulle, pas d'Allemagne, mais de Gaulle, sont les plus florissants, et où ils sont en pleine phase de romanisation, comme on le voit bien à l'époque du Mont-Beuvray. Donc là, c'est un choix volontaire. Choix volontaire que les Romains ne comprenaient même pas, puisque Tacite, à propos de la Bretagne, écrit justement qu'il ne comprend pas comment tous ces gens abandonnent leur tradition pour prendre celle des Romains. Mais c'est comme ça.
En Auroulie, je parle de la vue des Helvètes, bon, quand on les maintenant parmi les Gaulois aujourd'hui. Je réponds à la personne qui posait la question par rapport aux générations. Et je pense que nous pouvons encore arriver beaucoup plus loin que nous sommes aujourd'hui, étant donné que pour certains endroits, je parle d'Aventicum en l'occurrence, nous sommes en possession d'une série de générations attestées par l'épigraphie. Je parle de la famille des Camilli, et maintenant il s'agira de faire un lien entre les notions que nous a laissées l'épigraphie et puis les attestations archéologiques autres qu'épigraphiques qu'on peut lier à cette série de générations. Pour l'instant, on peut quand même dire, dans ce cas-là, même avec beaucoup de prudence, nous avons par exemple quelqu'un qui est le petit-fils de la génération qui a vécu la conquête de ses familles des Camilli, et qui, lui, donc, il a dû connaître son grand-père, on peut supposer, son grand-père qui était helvète, peut-être né avant la conquête des Gaules, avant la bataille de Bibracte. Et lui, quand il est mort, on lui organise ensemble avec les Éduins, puisqu'ils sont liés d'amitié, les aristocrates, on lui organise des obsèques. Bon. Et puis, donc, le petit-fils, il devient tribun militaire, il est stationné dans une des légions sur le Rhin. Il accompagne Claude pour la conquête des Gaules en 43. Et lui, quand il a terminé sa carrière militaire, donc toujours en étant le petit-fils de quelqu'un qui a vécu vraisemblablement la conquête aux alentours, donc il fait carrière dans l'armée, il doit connaître le sort de ses peuples, il revient, il fait sa carrière politique locale, et puis il s'entoure de certains éléments de la culture civilisation romaine pure que nous pouvons saisir. Bon, ça c'est un cas heureux où on peut voir jusqu'à quel point peut-être ont été intégrés ces quelques éléments de la romanisation. Mais je pense qu'on devrait exploiter beaucoup plus les résultats, par exemple, que nous avons obtenus par l'épigraphie et puis d'autres résultats que nous avons pu obtenir par l'archéologie matérielle pure.
L'exemple des acteurs de la romanisation, nous sommes dans les questions. Monsieur
François Savatier, puisque ce matin j'ai laissé passer mon tour, je tente ma question qui vient de l'extérieur. Je suis journaliste. Et donc, je me demande dans quelle partie tout ce que vous observez, qui est passionnant, n'est pas accompagné d'une partie qui est très silencieuse. C'est-à-dire que je me demande si, de façon silencieuse, puisqu'il s'agissait de Gaulois, donc de gens qui étaient devenus, s'ils restaient Gaulois inférieurs, la Gaule n'a pas continué à, d'une certaine manière, à vivre chez les gens modestes. Et je voudrais prendre plusieurs indices qui me viennent à l'esprit, comme par exemple, me semble-t-il, le fait que dans l'usine de la Grove 5, les indications industrielles se font toujours en gaulois, je crois jusqu'à deux siècles après la conquête. De même, cette habitude qui a été prise lors de la christianisation d'appeler les gens de la campagne des paysans, c'est-à-dire, me semble-t-il, si mon étymologie est juste, des païens. Et par ailleurs, je me demande aussi jusqu'à quand la langue gauloise reste attestée dans le territoire des Gaules.
Les pagani, d'abord, on peut tout de suite répondre, ça concerne tout l'Empire romain, c'est latinophone, c'est pas du tout limité à la Gaule, ça ne dit rien sur la Gaule. Et pour la linguistique, on a le spécialiste.
Donc pour la Grove 5, effectivement, c'est un très bon exemple. C'est un très bon exemple et je ne dirais pas deux siècles, mais au moins un siècle, presque un siècle et demi, jusque sous Néron. Maintenant, donc la langue gauloise est utilisée dans un site artisanal. Pour les derniers documents de la langue gauloise, ils sont difficiles à dater. Apparemment, ce serait les formules de Marcellus de Bordeaux, qui sont des formules magiques à utiliser contre des maladies. Et nous ne pouvons pas dater ce genre de documents. Marcellus de Bordeaux lui-même doit écrire au 5e siècle. Par contre, la tuile de Châteaublanc, elle, semble, d'après l'écriture, datée de la fin du 2e siècle après Jésus-Christ. Et il s'agit bien de Gaulois. Mais manifestement, il ne peut pas être question d'un document officiel. Le gaulois ne peut pas être utilisé par l'administration ni par les autorités politiques. Donc probablement un texte littéraire, mais cela reste dans le doute. Je dirais, sur le plan linguistique, un petit mot. Vous avez évoqué les documents linguistiques mêlés, issus de classe sociale probablement modeste, comme les pesants de fuseau, les dédicaces, les documents magiques éventuellement. Je n'irai pas jusqu'à employer le mot de sabir, mais effectivement, à un niveau, disons, social, qui n'a pas accès à l'éducation, il se rend compte très souvent une pratique de la langue où l'absence de normes fait qu'on passe d'un registre à l'autre, on passe du latin au gaulois, exactement comme moi j'ai entendu des irlandophones passer à l'anglais quand il était question de choses sérieuses, par exemple l'achat ou la vente d'une vache, ou bien encore des bretons. Les bretons font la même chose. Lorsqu'il s'agit de compter leur argent, ils passent au français. Voilà. Donc, autrement dit, il y a l'emploi des différentes langues, il y a un bilinguisme, mais un bilinguisme inégal. Ça n'est pas le bilinguisme de l'école bilingue à Paris, où l'on est capable de tout dire dans toutes les langues, enfin dans deux langues au moins, qui sont toujours le français et l'anglais, mais il s'agit d'un bilinguisme inégal qui traduit au moins une survivance de la langue gauloise. Et c'est à ce propos, justement, je reviens à la question de la survivance de la langue gauloise, elle a pu durer sous la forme orale beaucoup plus longtemps que ne l'indiquent les inscriptions, bien entendu. Et j'en veux pour preuve les erreurs de grammaire que l'on trouve dans les inscriptions gallo-romaines. Certaines sont de taille. Vous trouvez bibracti pour le datif bibractae. C'est manifestement un datif gaulois qui s'introduit subrepticement dans un texte latin. On peut aussi trouver des traces de la phonétique gauloise, ce qui n'est plus déjà tout à fait la même chose. La langue est peut-être disparu à ce niveau-là. Par exemple, Nepta, qui est une forme vulgaire pour Neptis, la nièce, qui est écrit couramment avec un X au lieu du P, Necta, Nerta. Ça, c'est un vulgarisme typique du latin de Gaulle. Donc, on a une romanisation sur le plan linguistique, une latinisation, si vous préférez, mais elle se colore très nettement sous une forme gauloise, sous une forme locale, inspirée par le gaulois. Voilà.
Xavier.
Oui, je ne suis pas linguiste, mais il me semble me souvenir que quand même les premiers missionnaires chrétiens autour de Saint-Martin devaient parler le gaulois pour convaincre les populations rurales. Donc le gaulois oral s'est maintenu au moins jusqu'au 5e siècle. Mais je voulais répondre sur le problème de l'agrofaisanque. Justement, quand je faisais allusion tout à l'heure au décor de l'agrofaisanque, c'est en pensant à une catégorie de gens qui sont ces potiers de l'agrofaisanque qui écrivent du gaulois, mais qui choisissent de dessiner, de reproduire un répertoire qui, lui, est intégralement romain. Et je précise quand même que dans les graffitis de l'agrofaisanque, il y a quand même des mots romains qui apparaissent, des mots techniques, justement, qui sont... Et donc, ce n'est pas simplement du gaulois pur, mais c'est bien quelque chose qui témoigne d'un mélange de langues plus complexe que ce qu'on pourrait penser au départ. On insiste toujours sur le gaulois parce que ça fait chic, mais ce sont des gens qui aussi ont une connaissance du romain.
Sur la question de la grosse zinc, deux ou trois éléments de réflexion. Premièrement, je crois qu'il ne faut pas trop se focaliser sur la question des décors, parce que si on regarde les choses de près, c'est ce qui est en train d'être fait par une équipe qui travaille dessus, la production décorée doit représenter moins de 5% de la production globale. Donc c'est quelque chose de totalement marginal. Ça fait un siècle qu'on se focalise sur ces questions de sigillés ornés, mais en fait l'essentiel de la production de la grosse zinc, c'est de la sigillée lisse. Deuxièmement, par rapport à ces questions de décor, personnellement, je poserais la question de savoir jusqu'à quel point ceux qui faisaient ces vases avec ces décors avaient le choix du type de décor qu'ils faisaient. Et je me demande jusqu'à quel point... il faut poser la question de savoir entre les mains de qui est la production et ce genre de production sur des ateliers comme la Grove Zinc ou d'autres ateliers de sigillés de Gaulle. Et je me demande si on n'a pas une production qui est très très proche du pouvoir romain. Je ne vais pas en dire plus aujourd'hui parce que c'est l'équipe qui travaille sur le sujet actuellement qui l'écrira dans les mois qui viennent, je pense. Mais en tout cas, je crois qu'il faut poser la question et pas balayer ça d'envers de la main trop rapidement.
Paola Piana Agostinetti. Un petit mot à propos de romanisation précoce en Cisalpine qui se lie avec le problème des mines et de l'aristocratie locale et des grands marchands. Premier point, la présence précoce romaine attestée par les sources écrites est à propos des mines des Salas, 143 avant, et aussi, c'est pas cisalpine, mais les mines du Norique, on pense, ou bien de la Dalmatie, c'est-à-dire des mines d'or qui ont été exploitées, étaient exploitées avant l'arrivée des Romains, mais qui, avant une conquête, ont vu la présence romaine, et parce que, évidemment, les Romains étaient très intéressés aux ressources d'or, comme peut-être l'étaient les Étrusques avant. Et alors, on a cette présence romaine chez le pays des Salas au 143, et les Romains s'emparent de ces mines, qui étaient des mines en filon, c'est-à-dire de or visible, très précocement, et c'est les publicains qui vont être maîtres de ces mines, tandis que les Salas se retirent de quelle façon. Et c'est intéressant pour moi parce que ma thèse est la suivante. Et là où les Romains n'ont pas une aristocratie locale au degré de parler avec eux, de traiter avec eux, ils s'emparent de ce qu'ils veulent. Mais on n'a pas seulement des mines au pays des Salas, il y en a même chez les Léponciens, surtout les Léponciens de l'Ouest, et c'est-à-dire Valle d'Osso, là où la région du Monte Rosa. Et là, on a, à mon avis, une aristocratie au degré de traiter avec les Romains. Alors là, les Romains ne vont pas en guerre, mais il y a des liens qui sont très forts. Il y a une aristocratie qui est Ornavasso, mais pas seulement, et c'est même Giugiasco peut-être, où on a des membres de l'aristocratie les tombes desquelles démontrent une romanisation précoce. Il y a de la monnaie à la fin du deuxième, et il y a de la poterie à vernis noir assez ancienne. L'idée de la politique des Romains qui est différente selon les régions. Deuxième chose est la présence des grands marchands qui ne sont pas romains de Rome, mais sont de Campanie, qui arrivent en Italie septentrionale. J'ai suivi l'histoire des Utii, qui un membre de cette grande famille de Utii, qui est de la région de Naples, qui arrive, à mon avis, en 75, dans la région de Varese, c'est-à-dire région périlacustre, au sud des Alpes, et là, s'enfuit un trésor de cette époque, un trésor d'argent, c'est un service de vin très, très important, assez important, et qui vient de la région de Naples, circumvesuviana, région de mafia si vous voulez, mais il y a un membre d'une famille du sud qui va en Cisalpine avec, à mon avis, l'objectif de contrôler, de faire des surveys à propos des mines. Ce service d'argent est près de Varese et près d'une mine d'argent. Là, la grande famille des Utii est une famille de gens qui exploitent les mines du sud de l'Espagne, qui font du commerce, qui on le retrouve, il y en a beaucoup de membres de cette famille qui toujours sont liés au commerce du métal, et il y en a même à Narbonne, un des outils de générations suivantes. Alors, il y a cette présence importante d'entrepreneurs qui viennent du sud, pas de Rome, d'Italie, qui arrivent et qui ont un intérêt à quelques ressources particulières, c'est-à-dire le métal. L'autre chose qui m'étonne est que les, si j'ai bien compris ce que Béatrice Coé a découvert, est que les mines du Limousin sont en partie des mines en filon, mais il y a encore de l'or invisible au Limousin qui maintenant a été exploité, est exploité encore maintenant. Si c'est possible, mais le professeur Domergue peut bien me dire, si ils ont, c'est-à-dire les Movici, ont vraiment exploité de l'or invisible, leur technique était bien avancée, tandis que les Romains exploitent de l'or d'alluvion et de l'or visible. À propos de la technique, si c'est vrai.
Bien, Domergue. Donc, sur les outils, je suis tout à fait d'accord. Hein. C'est exactement le même exemple à Carthago Nova et dans le Nord. Maintenant, dans le Nord, nous n'avons pas de preuves d'exploitation de mines par les outils. Ils sont là, mais où sont les lingots produits par les outils? Nous n'en avons aucun. Les mines des Salas sont des Crusoplusia, selon les termes de Strabon, ce sont des lavoirs d'or. C'est ce que nous avons dans l'Abessa. Maintenant, qu'il y ait des mines en roche dans le Monte Rosa, c'est normal. Est-ce que vous avez des preuves d'exploitation à l'époque romaine? À quelle époque? Bien. Alors maintenant, pour l'exploitation des... Tibère. D'accord. Pour l'exploitation des mines en roche, pour les minerais sulfurés, mais dès le 5e siècle avant Jésus-Christ, dans le Limousin, on exploite des minerais sulfurés. Et des minerais sulfurés de cuivre en gold, et en Italie, à Libiola par exemple, et en France, à Cabrières, à Saint-Véran, on exploite des minerais sulfurés. Et les Romains en étaient tout à fait capables. Moi, je crois qu'il n'y a pas là. Je ne comprends pas trop bien la nuance que vous avez introduite pour. Pourquoi les Romains n'ont pas exploité les mines du Limousin étaient tout à fait... Il y a de l'or libre dans le filon. Quand vous prenez un fragment de quartz bleu des mines du Limousin, vous avez l'or, vous le voyez. Il y a l'or libre et puis de l'or en sulfure qu'il suffit de griller. Dès le 4e siècle, ils le faisaient. 5e. Dans le colloque de Limoges, vous avez deux articles à ce propos.
Kenel.
Oui, c'est pour revenir un peu sur une question qu'on a débattue ce matin, revenir aux hôpitaux, l'occupation du territoire, au phénomène de romanisation et aux élites, hein, qui sont quand même le nœud de la question. Pour prolonger ce que disait Olivier Buxenschütz et d'autres tout à l'heure, comment mesurer les phénomènes de romanisation? C'est pas dans les matériaux importés du Sud, c'est pas dans les techniques nouvelles que l'on va utiliser. C'est plutôt dans le mode de vie. Et je crois que Bibracte est exemplaire sur ce plan-là. C'est vraiment l'occupation des Domus à Atrium, à la Romaine, qui habitent. Si ce sont des Gaulois, si ce sont ces élites gauloises qui habitent après la conquête dans ces Domus, ils ont donc quitté leur domaine ancestraux à la campagne. Et c'est là la grande révolution. C'est-à-dire qu'ils se sont déplacés vers la ville. Et c'est l'achèvement du processus d'urbanisation, si on veut bien. Oui, éphémère, je veux bien, c'est une rupture fondamentale par rapport à toute la tradition du premier, du second âge du fer. Il n'y a guère que Bibracte qui nous donne l'exemple de ce phénomène abouti d'urbanisation et de romanisation, le Tittelberg éventuellement, je n'en connais pas beaucoup d'autres, dans la relation Oppida, site ancestraux, gaulois, celtique, comme vous voulez, or narbonnaise bien sûr, et une véritable romanisation aboutie qui se marque dans le mode de vie et dans l'utilisation des modèles romains de villas ou de domus qu'on pourrait trouver au sud des Alpes.
Oui, dans le prolongement de cela, moi j'ai vu des éléments assez intéressants et tu viens de le dire, ancestral, lieu de pouvoir ancestral. Vous savez que Rome, au moment des événements dont nous parlons, traverse une révolution. Ronald Syme appelait ça la révolution romaine, le système politique, social de Rome change. Et en même temps, cette révolution est extrêmement conservatrice, parce qu'elle est archaïsante. Le régime augustéen est archaïsant. Il ramène la Rome archaïque des ancêtres. Et je me demande, est-ce qu'il y a des phénomènes chez vous qui sont du même type. Est-ce qu'au moment où ils traversent tout ça, parce qu'à Rome, ça c'est une référence évidemment très forte pour prouver que rien ne change, au contraire, on revient aux vraies valeurs. Est-ce qu'il y a, et j'en ai vu des indices dans le livre, et j'aimerais bien en savoir un peu plus, des indices que, pendant que tous ces bouleversements se font, les élites qui sont derrière tout cela se réfèrent aussi aux ancêtres, aux traditions, à la vieille culture, au lieu où cela se passait. On parle du Titelberg, je ne sais pas, c'est pour prolonger la question de Gilbert. Oui, Bux. Monsieur Buxenschütz, pardon. Mais je ne les reconnais pas dans la salle.
Le choix de transporter cette première expérience urbaine, dans la plupart des cas sur des hauteurs, est typiquement un choix traditionnel. On est allé rechercher des sites impossibles, monter des amphores à bivouac, qu'il faut vraiment en avoir envie, parce que c'était des sites qui avaient sans doute une valeur religieuse traditionnelle, qui datait de très haut. Et pour moi, on pourrait dire le retour sur les oppidas, c'est à la fois un événement innovateur en tant qu'il s'agit vraiment d'une ville, et en même temps un élément qui s'appuie sur une notion traditionnelle, qui est de revenir sur des sites qui avaient certainement déjà une connotation religieuse ou je ne sais pas quoi, bien avant.
Auguste a d'ailleurs fait cela à la dimension de l'Empire. Il a même restauré de grands sanctuaires dans l'Empire qui n'étaient pas romains, mais pour montrer que on respecte la tradition. Donc c'est un thème très intéressant et ça montre le parallélisme de ces histoires. Tout à fait. Oui, une autre question.
Oui, au niveau du retour à la tradition, on a réfléchi à un exemple, mais qui est ancien, qui serait plutôt peu après la conquête de la Transalpine, qui est sur les frontières de la Transalpine, près de Lyon, où on a une tombe à char implantée dans un tumulus, ce qui pour l'époque est original, un char à quatre roues, comme ça se faisait trois siècles et demi auparavant, sous un tumulus comme ça se faisait là aussi plusieurs siècles auparavant, avec un dépôt du défunt incinéré dans un vase en bronze, qui est une antiquité, une pièce de collection qui est du IVe siècle avant notre ère, qui sert de réceptacle au centre du défunt, comme si on avait voulu, au moment de la conquête en fait, de la Transalpine, se rattacher à des traditions qui devaient être orales, connues, et c'est une forme de conservatisme. Mais je n'ai pas d'exemple à donner, par contre, pour des époques plus récentes. Je voulais aussi réagir ce matin au statut de la femme, qui me paraît être aussi un témoignage, enfin, qui est peut-être, ou qui pourrait être un témoignage d'une forme de rapprochement entre Gaulois et Romains, mais à date ancienne. Le dossier, si on le regarde rapidement, pour l'archéologie, on a des tombes à mobilier privilégié dès le Hallstatt C2, enfin le 7e siècle, je ne suis pas spécialiste, jusqu'à l'Athènes B2, on va dire 4e et 3e siècle, c'est les dernières tombes de femmes à mobilier privilégié qui laissent penser que chez les Celtes, les femmes ont un statut social qui est différent des classiques, des Grecs et des Romaines. Après, on a une disparition de ces sépultures. Quand on regarde le mobilier des oppidas, enfin la culture des oppidas, on n'a que des tombes masculines, à ma connaissance, sauf peut-être un cas. Sauf en Angleterre, où il y a la royauté qui se maintient assez nettement dans les textes, où on a là des tombes à miroir, sans armes, qu'on peut penser à des tombes féminines. Bref, pas de tombes de femmes, alors qu'on a des tombes riches d'individus masculins. Et dans les textes, quand on lit César et les auteurs contemporains, on voit pratiquement pas de femmes. Elles sont, César ne les connaît pas, il les mentionne rapidement à propos de Gergovie, dans une histoire très célèbre où on voit l'oppidum attaqué par des centurions, les femmes qui sont sur leur rempart, des femmes riches, elles jettent leurs vêtements, leurs bijoux pour détourner l'attention des attaquants romains. Elles montrent leur poitrine, elles choquent beaucoup les Romains. Si j'ai bien compris, une matrone romaine aurait du mal à montrer ses chevilles. Enfin, c'est des choses très, très différentes, là, effectivement, des deux sociétés. Mais en même temps, on trouve dans les textes deux mentions. Chez les Bretons, Boudica, qui est chef de guerre, et Onomaris, en celtique orientale, qui est une femme chef de guerre, vers 117-118, la date est avant notre ère, la date n'est pas très assurée. On trouve aussi sur les monnaies, ça m'a toujours paru un peu bizarre, mais des cavalières nues qui semblent, enfin, qui sont apparemment des femmes, hein, vu la morphologie du personnage. Et on a comme ça une sorte d'ambiguïté qui est assez étonnante avec... des situations très contrastées. À Bibracte, je crois qu'on a fouillé une tombe féminine sur un lit qui paraît relativement ancienne. Oui, les choses sont quand même assez assez variés. Et en tout cas, pour revenir à mon propos, j'ai l'impression quand même que le statut de la femme, effectivement, a évolué fortement au deuxième, premier siècle avant notre ère, même si on met le cas de l'héritage, de la dot un peu à part. Elle s'efface quand même au profit d'un pater familias qui a dans sa main toute la famille, comme un petit peu on va le trouver à Rome. Et là, le côté qu'on met en avant de la femme celte égale, avec un droit supérieur à la grecque ou à la romaine, je ne le vois plus du tout.
Merci. Bah, tu sais, il y a toujours des exceptions à tout. Dans la nécropole de Goeblange-Nospelt, la dernière des chambres funéraires était une tombe de femme. Une femme d'un âge moyen, mort aux environs de 20 avant Jésus-Christ. Et là, sur cette tombe de cette femme, il y a eu, avec du mobilier, une amphore, du mobilier, la vaisselle métallique, etc. Et sur la tombe de cette femme, on peut documenter un culte des ancêtres, des dépôts de monnaie, jusqu'après le milieu du deuxième siècle après Jésus-Christ. Donc, c'est la seule tombe de cette nécropole extrêmement riche où on peut documenter un rite funéraire à la mémoire de cette femme certainement exceptionnelle sur plus de 150 ans. Oui. On a des exceptions à tout. Ce que je voulais dire à John, en ce qui concerne un peu la mémoire des anciens lieux de culte, ce monument, ce drôle de monument que vous avez vu hier dans l'exposition de Lyon, cette première phase en dur du sanctuaire du Tittelberg avec des piliers angulaires et des colonnes, on ne peut pas parler vraiment d'un temple, on en a parlé hier encore, je crois qu'on est d'accord que là il s'agit plutôt d'un monument commémoratif à la mémoire de ce lieu. Et après, bien le fanum typique.
Ferdière. Oui, toujours sur cette question des sépultures. D'abord pour la résurgence de traditions anciennes, enfin la volonté de revenir à des plus anciennes traditions, il me semble quand même que on a une série de sépultures aristocratiques qui s'étalent entre la conquête justement et le milieu du premier siècle après Jésus-Christ, où là on a, semble-t-il, le maintien d'une tradition indigène et même retour à des traditions éventuellement plus anciennes, puisque plusieurs d'entre elles sont des inhumations à une période où l'incinération est assez générale et donc peut-être retour à des traditions qui existaient dans l'aristocratie indigène et pas dans d'autres classes de la société. Mais à propos du domaine funéraire, je voulais revenir sur un point peut-être de détail, mais qui a été évoqué tout à l'heure dans son rapport par Daniel Pognier, qui est celui des tumulus de Gaulle du Nord. Parce que dans ce cas-là, à mon avis, il ne me semble pas qu'il s'agisse, c'est mon opinion, mais éventuellement discutable, qu'il s'agisse d'une tradition, du maintien d'une tradition indigène. Le maintien des traditions indigènes dans ces tumuli est dans l'existence de mobilier abondant, mais pas dans le tumulus, parce que ce sont des régions où il n'y a pas de tumulus, ou peu, à l'âge du fer, justement. Et un certain nombre de ceux qui ont été fouillés montrent que ce sont des tertres construits sur tambour en grand appareil, et dont on peut très bien imaginer qu'il s'agit en fait d'une tradition architecturale romaine dont le modèle est le tombeau d'Auguste. Donc, en l'occurrence, pas du tout une tradition indigène.
Je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire. Je n'ai fait que transcrire, évidemment, dans mon rapport ce qui a été évoqué. Dans la première version de mon rapport, j'avais largement, sur le plan personnel, mis en doute cette continuité, précisément en renvoyant plutôt avec ces bases maçonnées à tous ces tombeaux issus du modèle augustéen, qui est lui-même déjà construit sur un autre modèle. Mais enfin, je pense que cette filiation-là est certainement possible.
Très bien, mais je crois que le peuple commence à fatiguer et je crois qu'il y a encore une question.
Juste une anecdote là-dessus, effectivement sur ces tombeaux cylindriques, il y a une très vieille découverte du nord de la Bourgogne qu'on a oubliée depuis longtemps, même si elle a été publiée par Corot au début du XXe siècle, c'est le tumulus de Boisvert, où on a un tumulus cylindrique, donc, style le mausolée d'Auguste, mais qui est construit avec la technique du Murus Gallicus. Donc là aussi, hein, c'est une réalité qui est complètement biface. Et on a pas mal d'exemples, enfin, d'autres, on pourrait citer d'autres exemples de ce genre-là. Rien n'est simple.